When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Studio 404.
Studio 404.
L'émission de société.
De société. Multimédia. Studio 404. Un podcast de qualité présenté par L'âme UA.
Bonjour chers auditeurs et bienvenue sur Studio 404. Quel plaisir de vous retrouver après cette petite pause de fin d'année. On arrive tout frais, voilà, on a fait la galette des rois, on est requinqués, on est extrêmement en vénère et on vous a préparé une émission, comme on les aime, de prospective sur la nouvelle année et le futur qui va arriver avec mes quatre chroniqueurs. On est très optimiste. Bon, on a eu une année, l'année dernière, c'était vraiment une année de merde, on est d'accord. Je pense que du vote unanime de la population, sur Internet ou pas, on a vécu vraiment une année bien pourrave. Il y a eu des morts, beaucoup de gens, d'artistes qu'on a adorés qui sont morts, voilà. Ella Fitzgerald, Carl Sagan, Tupac, Mastroianni, Mitterrand, tout ça. C'était aussi une année qui a vu la montée des extrêmes. C'était vraiment très triste pour nous qui évidemment ne sommes pas là-dedans. Donc ça a été dans plusieurs pays, en France, voilà. Peut-être que cette année, on verra. Le FN va peut-être remporter énormément de circonscriptions aux législatives. Mais on verra si ça passera. En tout cas, nous, on s'intéresse plutôt au numérique, on s'intéresse plutôt au multimédia, on s'intéresse plutôt au futur. Et avec moi, j'ai quatre chroniqueurs qui vont vous parler de sujets, pas d'actualité, parce que ce sont des sujets qui sont en train d'arriver, des sujets qui sont d'avenir, mais des sujets presque de pré-actualité. En tout cas, on parlera de vidéos haute résolution, on parlera de start-up, on parlera de notre intimité, on parlera d'Apple, de plein de choses vraiment, vraiment étonnantes. Et donc, pour en discuter avec vous, pour vous présenter ces sujets, je sens qu'ils sont très très chauds avec moi, mes chers petits chroniqueurs. J'accueille donc Fibre Tigre, Sylvain Palais, Daz et Mélissa. Comment ça va les amis? Comment ça va Fibre?
Ça va très bien parce que inattendu, juste après Noël, il y a un jeu vidéo qui est sorti qui s'appelle Diablo.
Ouais.
Et je suis à fond dessus.
Ouais, voilà, pas mal.
Même on sent un petit peu, je sais pas si on va en parler enfin dans cette émission, mais du jeu online.
Ouais,
mais,
ouais.
Mais on sent que ça va être quand même un truc qui va être assez cool dans les années
fou.
À venir.
Ça va être fou.
Ok, d'accord. Moi, je sais pas encore si ça marchera, mais intéressant. Diablo, à noter. Sylvain, comment ça va?
Ça va. Un petit peu fatigué. Ça faisait longtemps. Je suis retourné au bain douche hier soir.
Ouais.
Et effectivement, les rumeurs vont bon train et ça a vraiment perdu de sa superbe.
Ouais.
On dirait une discothèque de Porte de Champéret.
Ça fait un peu comme la fin du Palace, quoi.
Ouais, c'est un peu la fin. Ouais.
C'est un peu triste. Daz, comment ça va? T'étais pas en boîte de nuit, mais toi, tu guettais autre chose.
Ouais, je guette autre chose. Ça y est, enfin, on a une date de sortie annoncée pour la nouvelle console de Nintendo, la dernière là, avec son pad un peu chelou.
Ouais.
Donc, enfin, la N64 arrive chez nous.
Bah ouais.
Il était temps, putain, avec un Mario et un Zelda comme d'hab. Je pense que ça va être bien.
Je sais pas si les observateurs sont chauds ou pas sur cette console.
Ouais, pourquoi pas, hein. Je veux dire, il y a de la place, tu vois, à part la Saturn et la PlayStation, c'est bon, quoi.
Ouais, il faut des concepts un peu nouveaux à chaque fois.
Bah oui, il faut.
C'est Nintendo. Et Mélissa, enfin, qui est avec nous, comment ça va, Mélissa?
Ça va bien, mais en fait, j'en ai un peu marre parce que je voudrais que cette année à venir, on m'appelle plus Melby parce que là, genre, Spice Girls, c'était super en 96. Mais en fait, tout le monde m'a appelé à Noël et au Nouvel An, ça va Melby et tout, et en fait, j'en ai marre.
Ah,
donc je voudrais vraiment, si vous pouvez, je sais que les Spice Girls c'est super, continuez à écouter, elles vont faire plein de trucs chouettes, j'en suis sûr. Mais là, arrêtez s'il vous plaît.
Très bien, le message est passé pour nos auditeurs. En tout cas, nous on va commencer l'émission. Je vous rappelle, hein, c'est une année excitante, c'est un avenir excitant pour 97 qui s'annonce. Voilà, on a 100 000 sites aujourd'hui répertoriés, mais ça va exploser. On va avoir des modems qui sont en train de passer aux 56K. Et du coup, beaucoup d'idées et des possibles startups. Et c'est Sylvain qui va nous parler de ce phénomène.
Sujet numéro 1.
Pitcher plus pour gagner masse, bienvenue dans le monde merveilleux des startups.
Eh oui, tout à fait, l'âme. Pitcher, startup.
Alors les startups.
Peut-être que vous avez rien compris à ce titre, c'est normal. Heureusement pour vous, je suis là pour partager avec vous mon expérience. Eh oui, je suis connecté à Internet maintenant depuis 4 mois.
Ah ouais, déjà.
Et ouais, 4 mois que je suis branché sur les salons de discussion, des chatrooms sur ICQ et IM, et je cyberdiscute pas mal avec des Américains. Ouais, c'est ça qui est beau avec Internet aussi. Et je vais vous dire un truc, les potes, ce qui se passe sur la côte ouest des États-Unis en ce moment, bah c'est méga chouette.
Ah ouais,
vraiment méga chouette. Si vous suivez un petit peu la presse économique, vous êtes sûrement au courant qu'il y a 1 an et demi à peu près, il s'est passé un truc complètement fou dans le monde de la finance. Netscape Navigator, hein, le navigateur Internet que vous utilisez tous, est rentré en bourse. Jusque-là, rien de vraiment délirant. Sauf que à ce moment-là, Netscape existait seulement depuis 16 mois. Et ouais, 16 mois. Là, on commence à se dire, bravo les mecs, on doit pas sniffer que du bois de santal à San Francisco. Ouais. Et c'est pas fini parce que pour sa première journée en bourse, Netscape va clôturer le Nasdaq à $58 alors qu'il avait ouvert à 28. Ça déménage un max. Et à la fin de la journée, l'entreprise est valorisée à $3 milliards.
Ah oui, 3 milliards de dollars.
C'est énorme, c'est énorme. Et le plus dément là-dedans, les loulous, c'est que cette boîte, elle gagne pas d'argent, en fait. Ils sont même pas à l'équilibre. Mark Andreessen, le fondateur, il est devenu milliardaire en une nuit. Tout simplement.
Ah ouais.
Et bah voilà. C'est ça, une start-up.
C'est fou, ouais. C'est complètement fou, une start-up.
C'est incroyable. Alors, vous allez me dire, eh, Sylvain, tu parles que de fric, Internet, c'est pas ça. Internet, c'est le monde qui s'affranchit de l'économie capitaliste qu'on attendait tous. C'est le catalogue des connaissances universelles. C'est l'Internet Archive qui a été créé l'année dernière. Ne viens pas tout gâcher avec ton argent. Eh ben, elle est bien belle, votre utopie, les gars, mais sans ces entreprises, vous avez pas de navigateur. Vous avez pas de modem 56K. Vous n'achetez pas de livres sur Amazon. Vous n'avez pas les super pages en flash qu'on commence à voir un petit peu partout et qui sont absolument magnifiques. Internet, c'est le territoire d'innovation multimédia. Il y a tout à inventer. Et entre nous, il y a quand même pas mal de fric à se faire. Et voilà. Je redis, une entreprise vieille d'un an, sans modèle économique, qui rentre en bourse pour que son fondateur devienne milliardaire en une nuit. À mon avis, dépêchez-vous parce que ça va pas durer longtemps, en tout cas pas 20 ans. Les gens vont vite se rendre compte qu'on est en train de gonfler une sorte de ballon.
Ah, on parle d'un ballon, tu penses?
Ouais, c'est vraiment un ballon rempli d'air, quoi.
J'aime bien parce que Sylvain, il invente toujours des mots. On va arrêter. Le ballon internet.
Le ballon d'internet, ouais, carrément. Je pense que vous avez compris à peu près où je voulais en venir. Moi, je suis gonflé à bloc comme le ballon, hein, pour lancer ma start-up. La recette, elle est très simple.
Alors, comment créer une start-up?
Mes cyber amis américains, ils m'ont fait un peu le tuto du truc. Pas la peine d'avoir une idée révolutionnaire, il suffit de raconter un truc assez cryptique et être assez sûr de soi pour convaincre les investisseurs. Mon modèle, par exemple, c'est Jeff Bezos, le type qui a lancé Amazon. Le mec, c'est un ancien trader de Wall Street. Bah, ce qu'il nous montre, c'est qu'il suffit de prendre un air un petit peu exalté, un poil prophétique, puis d'enchaîner des suites de mots que personne ne comprend. Alors que, bon, entre nous, vendre des livres sur Internet, vaste blague. Le web commerce, ça fonctionne qu'en business to business, comme Dell avec ses ordinateurs. Amazon est mort dans 2 ans, mais ça, Bezos, il s'en fout, il sera déjà milliardaire. Écoutez-le.
What's really incredible about this is that this is day one. This is the very beginning. This is the Kitty Hawk stage of electronic commerce. We're moving forward in so many different areas, and lots of different companies are as well. And the late 20th century is just a great time to be alive. You know, we're going to find out that I think a millennia from now, people are going to look back and say, wow, the late 20th century was really a great time to be alive on this planet.
Ah, il y croit. Hein.
Ouais, le mec doit pas fumer que de la moquette, je pense, franchement. Par contre, regardez en France, Thierry Lhermitte. Ça, c'est un mec qui a tout compris. Il lance un serveur en ce moment qui permet de se renseigner sur les films à l'affiche. Alors, tout le monde s'en fout parce qu'on a déjà tout ce qu'il faut dans Télérama pour ça. Mais par contre, il possède l'adresse internet France Cinéma Multimédia. Et ça, croyez-moi, ça va se revendre très très cher quand tout le monde sera connecté à internet.
FCM, qui veut dire?
Ça veut dire France Cinéma Multimédia. Voilà, c'est la société qu'on a créée qui est un serveur du cinéma en France. Donc il y a plein d'actualités, de bandes annonces, d'images, de sons, de textes, d'informations
sur le cinéma.
Sur le cinéma. Voilà, alors ça c'est une page de FCM sur laquelle il y a les films qu'il y a actuellement. Showgirl, Le Maître des éléphants.
La suite, elle est hyper simple. Vous allez convaincre un investisseur avec une idée tellement futuriste qu'elle n'arrivera de toute manière jamais de notre vivant. La réalité virtuelle, des voitures qui se conduisent toutes seules, j'en sais rien, des intelligences artificielles à qui on pourrait parler. Bref, un bon scénario science-fiction très utopiste et c'est dans la poche. Franchement, ça marche comme ça. Ensuite, il faut créer une page internet avec toutes les dernières technologies qui existent aujourd'hui. Donc,
tu mets tout, quoi.
Ouais, tu mets tout. Tu fais un site en flash, avec bien sûr une version pour chaque navigateur, un logo animé, par exemple une rotation 3D, une musique MIDI qui se lancerait automatiquement, qui serait un peu ton jingle. Bref, il te faut aussi un nom hyper cool. Ça, c'est évident. Donc, soit avec un E devant, soit un point com à la fin, soit, et ça, c'est quelque chose qui marche bien en ce moment en France, j'ai l'impression, une fin qui finit en EO.
Ah ouais, ça c'est pas mal.
Ouais, je sens bien. Exemple, tu lances une start-up qui va révolutionner le monde du bricolage, tu l'appelles ibricoleo.com. Ça suffit généralement à convaincre un investisseur. Sérieusement.
C'est fou.
Start-up du bricolage.
Ouais.
C'est complètement fou.
La dernière étape, profiter. faut dépenser tout cet argent avant qu'il n'y en ait plus, faut se faire plaisir, faut faire un pied de nez à la société des costards cravates qui se la pètent avec leur téléphone portable à la défense, c'est tout. Voilà, faut acheter une grosse baraque, une piscine, faut aller à tous vos rendez-vous en basket, faut déménager à San Francisco pour développer votre start-up. Il y a d'ailleurs une vallée là autour de la baie où les loyers sont pas chers du tout. Faut aller construire là-bas quoi. Évitez juste de vous placer sur un secteur où il y a trop de monde, genre les moteurs de recherche. Parce que là, il y a Yahoo qui vaut déjà plusieurs milliards, donc laissez tomber, c'est trop tard, il y a personne qui va pouvoir les déloger, c'est un mastodonte Yahoo. Donc tous ceux qui essayent en ce moment s'y cassent les dents de toute façon. Bref, Internet, c'est le nouvel Eldorado. Et moi, je veux être un pionnier de cette ruée vers l'or. Et quelle ruée, quoi. Créer une boîte juste avec une page internet un peu à la mode, un nom qui sonne bien et une offre dont absolument personne n'a besoin. C'est énorme, non? Bah, grouillez-vous parce que je pense que ça va pas durer. D'ici 5 ans, quand les grosses boîtes du CAC, nos entreprises nationalisées, nos SNCF, nos postes, etc., vont comprendre ce que je suis en train, moi, de vous raconter maintenant, bah, la récré, ce sera terminé. Le Monde, là, le journal, il a déjà son site internet. Donc, personne ne fera le job mieux qu'eux puisqu'ils le font depuis 50 ans, en fait. C'est pour ça qu'une start-up d'information, bah, ça sert à rien. Croyez-moi. Quand le roi Merlin va débarquer, par exemple, eh ben, ibricoléo.com, ça sera obsolète. Donc, vous croyez que Jeff Bezos, il va faire quoi quand les libraires, ils vont créer leur page web? Ciao, Jeff Bezos. Il partira avec son argent. Et oui, Internet.
C'est méchant avec Jeff Bezos.
Ah, bah ouais. Oui. Internet, avec tous ses rêves utopistes, il va finir de toute façon régulé par les ronds de cuir, comme d'habitude, comme le reste, comme l'innovation a toujours été régulée. On a juste un tout petit sursis. Il faut en profiter absolument tout de suite. Si vous avez des remords par rapport à ça, rappelez-vous d'un truc. Toutes ces vieilles entreprises faites de briques et de mortier, elles s'en mettent plein les poches sur notre dos depuis des années. Je trouve que ça leur fait du bien de se faire bousculer par des minuscules boîtes virtuelles de 3 personnes qui promettent d'offrir mieux pour moins cher, même si c'est du vent. Quand Internet deviendra comme le vieux monde, on aura au moins eu le mérite de faire trembler ces mastodontes, d'avoir tenté de supprimer les intermédiaires, d'avoir essayé de décentraliser les organisations grâce à des idées un peu folles. Voilà, on aura créé une rupture, une disruption, comme disent mes potes à SF, sur ce formidable terrain de jeu qu'est Internet. Et après quoi? Bah après, quand tout va se dégonfler, quand tout va redevenir normal.
Quand le ballon va se dégonfler.
Ouais,
tu
ouais, le ballon va éclater. Se dégonfler. Non, il va pas éclater, il va se dégonfler. Enfin, ça va partir comme c'est venu, quoi. On va se retrouver avec un Minitel un petit peu plus évolué, bien régulé. Et on se souviendra avec nostalgie de ces belles années un petit peu survoltées. Mais moi, j'ai un plan. Quand tout ça, ce sera fini. Pas de souci. Je ferai du consulting pour les entreprises qui se demanderont comment faire du business sur Internet. Et je pense que je vais appeler ça la e-transformation des entreprises. e-transformeo.com. Voilà, ça sera mon entreprise.
Ça, j'y crois pas du tout. Merci, Sylvain. Alors, Sylvain, c'est fou ce que tu nous as raconté.
C'est incroyable.
Donc, il y a un monde où des mecs se font des milliards sur des pitchs et des idées.
C'est ça.
Du jour au lendemain.
Ils pitchent des startups à des investisseurs, c'est-à-dire qu'en une minute, ils sont capables de raconter leur idée et du jour au lendemain, ils sont milliardaires.
Et le lendemain, ils sont ruinés, mais ils ont pris leur argent et ils passent à autre chose, quoi.
Exactement.
Et donc, toi, c'est ce que tu conseilles, en fait, de faire ce truc d'imposteur.
Ouais, moi, je pense qu'il faut en profiter, ouais. Ouais. Mais ouais. Je te dis, mais il y a un côté aussi révolutionnaire de faire ça. Il y a un côté pied de nez au capitalisme, tu vois. C'est jouer avec avec les règles du jeu. C'est ça, Internet, je pense.
Ouais.
C'est un peu fou, du coup. Et comme tu dis, il faut en profiter. Ça veut dire que toi, tu crois que ça va pas durer quand même.
Dans, je sais pas, 5 ans, c'est terminé.
Non, mais attends, Amazon, ouais. Ça a l'air trop bien comme idée, là.
Mais vendre des livres, n'importe quoi. Vendre des livres sur Internet, mais qui fait ça, sans déconner?
Non, mais imagine, parce que moi, je suis allée étudier aux États-Unis. Ouais. Et genre, t'as beaucoup plus de livres là-bas.
Ouais. Ouais.
Et genre, pour en faire arriver chez toi, faut que t'appelles la librairie avec un numéro étranger et que tu commandes le truc et que t'envoies un chèque. Et genre, c'est hyper compliqué.
Ouais, non, mais attends, Amazon, ça marche pas en France.
Non, mais imagine. Genre, imagine, ça marche en France.
Bah, genre, t'es sur ta page Amazon, là.
Ouais.
Et tu commandes un livre et il arrive chez toi.
Bah ouais.
Bah, ils peuvent se lancer en France, Amazon, non?
Mais n'importe quoi, mais le marché français, il est nul.
Mais je comprends pas pourquoi les gens feraient ça, en fait. C'est 10 fois moins pratique que d'aller à la bibliothèque.
Bah, la bibliothèque, normal, tout le monde a une carte de bibliothèque.
Non, mais c'est l'accès, le nombre de livres auxquels t'as accès.
Mais il y a des gens qui veulent acheter aussi.
Mais genre, si tu veux des livres étrangers, par exemple.
Bah, t'as des librairies américaines à Paris, tu vas chez
Brentanos. Ouais, mais il y en a deux. Ça prend 2 mois, je te jure, j'y suis allée. Bon, ouais. J'en peux plus. Donc, c'est compliqué. Donc,
Mélissa croit Amazon, c'est la seule fibre. Tu crois, toi, Amazon, toi qui aimes beaucoup lire et beaucoup écrire des livres quand même, qui en consomme beaucoup.
Sans prononcer sur Amazon, je suis un peu déçu parce que, en fait, Internet, moi, j'ai pas tout compris ce que c'était au début.
Ouais.
Et il y a 3-4 ans, je comprenais pas la différence entre Internet et CompuServe, qui était un fournisseur d'accès. Maintenant, je comprends, je sais pas si vous voyez.
Ouais, bien sûr.
Mais bon. Ouais. Et pour moi, Internet, c'est, on va dire du piratage de jeux vidéo,
ouais.
Discuter avec des gens vraiment de l'autre côté de la planète. On vous dit souvent ça aux gens qui n'ont pas Internet. Vous savez, on peut discuter avec des gens de l'autre côté de la planète. C'est assez intéressant et c'est bien.
Ouais.
Et il y a tout ce côté hippie, en fait. C'est des néo-hippies, c'est-à-dire des gens. Ben, on va créer une nouvelle société de partage. Tu vois.
Mais c'est pour ça que ça cadre pas. Avec
et justement, Sylvain arrive et donc, il nous raconte cette histoire.
Donc chronique criminelle pour toi, de Sylvain.
Bah, comme d'habitude.
Non. Il fait un constat réel parce que c'est. Enfin, effectivement.
C'est ce qui est en train de se passer.
Et effectivement, je crois que des gens capitalisent sur le fait que personne ne comprenne rien à l'internet pour faire de l'argent, et malheureusement ils sont en train de casser cette idée, casser cette utopie qui pourrait être. Et personnellement, je me dis, si on reste, je ne peux rien faire parce que je suis tout petit, mais on va rester inactif et peut-être internet va sombrer dans une sorte de capitalisme, et vous verrez qu'on aura des, enfin vous voyez, aujourd'hui le .org c'est pour les organisations, le .net c'est pour internet, ben le .com pour les activités commerciales, vous allez voir qu'il va s'imposer.
Ouais, comme Amazon.
Et voilà, amazon.com, et vous verrez que la plupart des sites, ils seront en .com dans le futur.
Ah ouais.
Et ça c'est grave quoi, si ça arrive, c'est
ben non, en fait, c'est très simple, soit vous voulez un internet élitiste utopiste et voilà, vous serez entre chercheurs du CERN et ce sera rigolo, soit vous voulez un internet démocratisé qui en est dans toutes les familles, que tout le monde accède à la connaissance, et là il faut, je suis désolé hein, passer par l'innovation commerciale pour ça.
Mais attends, tout le monde accède à quelle connaissance? De toute façon, elle est pas du tout réguler ta connaissance.
Il y a 100 000 sites quand même. Enfin,
bah ouais,
l'année dernière, il y a 100 000 sites, mais je veux dire, c'est Encarta reste la référence pour l'encyclopédie en ligne.
Mais ouais, on peut imaginer un jour Encarta sera, je sais pas, sur internet.
Mais n'importe quoi.
Mais si toutes les pages sont reliées entre elles, un jour, tu vois.
Mais faudra un monde.
Un genre de Encarta accessible sur internet.
Mais il faudra un monde de ouf pour le tenir. Je vois pas quelle équipe pourrait tenir une équipe assez grande.
Déjà, les chercheurs, ils mettent déjà en ligne leurs trucs et leurs recherches et leurs rases avancées. Donc,
est-ce
que vous pensez sérieusement que les majors, les énormes sociétés qui font par exemple les encyclopédies, l'encyclopédie Britannica, est-ce qu'ils accepteront que des trublions fassent des choses sur internet? Ils vont forcément les écrabouiller tout de suite.
Alors là, au-delà du business model de la start-up, là, c'est quelque chose que tu peux pas vendre. Sylvain, tu revenais sur un point qui était intéressant. Tu me disais, bon, effectivement, il y a un secteur qui est mort, qui est le secteur des moteurs de recherche, etc. Ouais, c'est vrai qu'en ce moment, les amis, c'est la folie, qu'on a chacun notre moteur de recherche favori. Soit Lycos,
voilà. AltaVista aussi.
Bah, c'est AltaVista, Fibre aussi. Moi, c'est Lycos. Toi, tu parlais de Yahoo, qui est
énorme, mais moi, j'utilise InfoSeek, perso.
Voilà, InfoSeek. Ben, InfoSeek, c'est intéressant parce que, j'ai vu, donc, c'est un moteur de recherche, et ils ont un nouveau business model, et ils vont faire ce qu'on appelle du cost per click, voire du cost per impression, et le petit nom, c'est du CPM.
Ouais.
En fait, c'est un moteur de recherche, donc quand tu vas dessus, si les gens cliquent sur le lien, eux, ils gagnent de l'argent.
C'est comme, dégueulasse,
c'est
quand même.
Bah, ouais. C'est n'importe
mais,
quoi. Ça.
Mais attends, non, mais attends.
Mal. Moi, je suis un peu prêt à payer.
C'est-à-dire, tu payes le portier, quoi.
Non, ça veut dire que.
Mais non, mais tu as le service gratuitement, surtout.
Tu payes pas le contenu, quoi. Tu payes l'accès au contenu.
Mais les gens qui vont cliquer dessus, eh ben, c'est comme une sorte de régie pub automatisée. Dès qu'on clique sur
la dérive, ça veut dire qu'il y a un mec qui veut que son site, il sorte tout de suite, il va devoir payer plus.
Ah bah oui, mais donc
t'auras pas l'info telle qu'elle apparaît réellement, t'auras l'info qui a été payée.
Oui, mais du coup
plus.
Le mec qui a fait le moteur de recherche, qui s'appelle InfoSeek, bah je pense qu'il est assis sur une mine d'or quand même.
Ouais, non, mais je crois que vous oubliez que pour vous connecter à internet une seule minute, faut payer.
Oui, déjà.
On paye tout le temps.
Oui, mais justement.
C'est incroyable.
Moi, je paye l'accès pour ne pas avoir après de logique commerciale sur la navigation. C'est pour ça que je paye AOL.
Oui, mais. Là tu passes par plein de moteurs de recherche, donc à un moment les mecs il y a au moins des centaines de milliers de personnes.
Oui, mais
dans le monde
ça veut dire qu'internet ne sera plus neutre, c'est ça qu'on est en train de dire en fait.
Non, mais quand tu payes, oui, quand tu appelles et qu'il y a des appels payants, tu t'en fous, ça te fait chier, mais tu le fais. Là c'est pareil.
Moi je pense est-ce que tu veux un service gratuit mais du coup un peu sponsorisé sans que tu le saches?
Ben non, mais si c'est gratuit,
ouais,
ben c'est toi le produit.
Oh, genre,
bah attends.
Ouais, c'est pas con.
Tu nous ressors tes vieux cours de HEC là?
Bah oui, bah je suis désolé, mais bon, c'est la vérité quoi.
Non, mais là où ils se plantent par contre InfoSeek, c'est qu'ils ont trouvé un modèle économique.
Moi je trouve ça intéressant.
Ouais, mais ça sert à rien sur internet d'avoir un modèle économique, regarde.
C'est vrai.
Là, le problème d'avoir un modèle économique, c'est que forcément tu es obligé de donner des résultats et donc tu peux plus dire oui, mais je vais avoir des milliards. Oui, en fait, et forcément
non, parce que tes investisseurs ils comprennent pas ce que tu fais. Ouais. Donc ils savent pas les résultats qu'ils ont.
C'est ça, toute la bonne.
Je vends des livres sur internet, vous rendez compte de la connerie quoi.
Du coup, Sylvain nous dit avec un bon petit pitch et des mots un peu compliqués, on peut sortir une start-up. Est-ce que vous auriez un pitch ou une idée pour essayer de faire un truc et comme dit Sylvain, être milliardaire et puis dans 18 mois faire faillite et puis de toute façon après Sylvain va tomber en dépression. Alors Fibre, toi qui as toujours des bonnes idées.
Alors je me connecte parfois sur internet, ça me coûte assez cher, sur du jeu online, ça s'appelle des mushs, c'est des jeux textuels online et on joue dans, ça s'appelle Elendor et on joue genre dans la Terre du Milieu. Je joue un cavalier du Rohan, si vous voulez tout savoir.
D'accord.
Et en fait je jouais et puis au fur et à mesure je me suis aperçu que je parlais plutôt aux gens. Et c'était chouette de parler, de rencontrer des gens en fait. Et je me dis que peut-être si Internet pouvait être une sorte d'agence matrimoniale.
Ah. C'est un peu dur parce que sans voir les gens, enfin. Ah, peut-être.
Mais si, par exemple, au lieu qu'on mette une petite annonce dans un journal, tu es dans une pièce genre le hall du Rohan ou la terre du Mordor et t'as 50% de femmes et 50% d'hommes et on n'est pas obligé d'avoir son vrai nom, tu vois, et puis on se rencontre. Moi je pense qu'il y aurait des gens qui paieraient pour ça, tu vois.
Le mec pitch le Minitel là, on est d'accord.
Ouais, c'est clair, mais avec le côté jeu de rôle en plus quoi.
Ouais. Mais du coup, c'est vrai que je vois pas trop l'intérêt. Enfin, si tu rencontres quelqu'un, tu fais 30-15 ULA et bah tu l'as, oui. quoi, tu vois.
Non, mais on fait le même prix.
ULA, tu l'as.
ULA, tu l'as.
ULA, tu l'as, bah oui.
Tu l'as eu dans le. Bref.
Bref.
Est-ce que l'un de vous a un petit pitch ou une idée? Alors, Mélissa. Mélissa est partante.
Bah, alors, Sylvain parlait de la start-up d'information qui marcherait pas. Forcément, je vais faire la meuf optimiste, hein.
Bah oui.
Parce que.
Toi, tu crois, toi?
Bah ouais. Enfin, déjà, tu vois, tu dis, on peut pitcher n'importe quelle idée. Là, t'as, en gros, t'as un paysage médiatique qui existe depuis un siècle, qui a pas vraiment bougé. Et là, t'as la possibilité de publier tout ce que tu veux en quantité, enfin assez facilement. Ouais. Bon, c'est limité dans le temps parce qu'encore une fois, on paye, donc on peut pas rester toute la journée connecté sur Internet pour publier du contenu.
Mais explique-moi comment tu gagnes ton argent, puisque ce qui fait vivre un journal, c'est les abonnements.
Bah, après, les gens, ils t'envoient de l'argent, quoi.
Tu leur envoies de l'argent.
Parce que tu publies des informations. Mais ils payent déjà pour aller sur Internet.
Attends, laissez-moi ça finir. Ton pitch, donc, c'est un site d'information, mais que sur Internet.
Ouais, que sur Internet.
D'accord. Genre, il n'y aurait pas une déclinaison en papier?
Bah non, parce que, genre, il y a des gens qui vont avoir Internet et qui sont quand même des gens. Regarde, on voit, c'est des chercheurs, c'est des gens qui sont pointus. Donc, tu peux faire un média de niche pour ces gens qui aiment, tu vois, la technologie, je pense.
Mais comment t'attirer des visiteurs
et du coup? Jamais le papier, les gens.
C'est n'importe quoi.
Pas prêt. Bah,
moi, c'est dur.
Je sais pas, hein, vous passez quand même pas mal de temps.
Moi, j'ai mon équipe en format A0, tu vois, comme ça, qui prend toute la place. Bon, c'est un peu dur à oublier, quoi.
C'est pas l'odeur du papier, quoi.
Ouais.
Ouais, c'est super important, ça.
Moi, je sais pas, je me dis, comme on peut pitcher n'importe quoi, franchement, j'y crois, quoi.
Ok, donc, toi, Mélissa. Non, mais d'accord, moi, c'est intéressant. Mélissa, donc, un site d'information purement sur Internet que sur Internet.
Ouais.
Mais avec des sujets un peu, du coup, un peu différents, un peu décalés.
Bah, tous les sujets qu'on veut, en fait. D'accord. Je vous en parlerai dans ma chronique.
Ah, intéressant. Et toi, Daz, est-ce que t'aurais une idée ou pas, ou t'y crois pas du tout?
J'y crois moyennement, moi. De toute façon, tous ces trucs-là, je pense que quand, enfin, Sylvain le disait très bien, hein, quand les acteurs légitimes du secteur vont commencer à se pencher dessus, ça va faire exploser tous vos trucs. De trader sur le retour là, mais je sais pas, bah du coup on parlait des livres avec Amazon, je sais pas, peut-être un truc avec de la musique ou quelque chose comme ça, tu vois.
Ouais.
Un service qui te permettrait de commander des CD.
Ah ouais, OK, ouais.
Pour qu'ils aient vérifié toi, ouais, des CD ou des cassettes, parce que bon.
Tu vois. Ouais, OK. Mais là du coup tu fais face à la Fnac, quoi.
Ouais.
Ouais, mais eux ils y sont pas du tout.
Ouais. Non, donc, mais je veux dire, enfin, je préfère aller à la Fnac acheter un vrai CD que de le recevoir.
Non, mais après, à la Fnac, tu peux l'écouter, mais là, ça sera un service où tu pourrais quand même écouter des petits extraits.
D'accord, ok. Et tu pourrais les acheter à distance.
Ouais. Et puis, ça arrive par la poste, normal.
Sans vouloir, utiliser les termes techniques, le téléchargement.
Ouais.
Donc, l'écoute des extraits. Ouais. C'est faut avoir une sacrée connexion.
Ouais, parce que
c'est pas de mal à l'œil, hein.
C'est vrai,
le son.
Il faut les héberger, tes fichiers.
Non, parce que regarde, dans l'extrait de Thierry Lhermitte, on l'a pas passé en entier, il est très intéressant. On invitera les auditeurs à l'écouter. On se passera des cassettes. Moi, je l'ai enregistré, donc on pourra faire tourner la VHS. Mais dans l'extrait complet, il dit que tu peux télécharger des bandes annonces vidéo, mais que ça prend entre 10 et 15 minutes quand même pour télécharger une bande annonce.
Oui, mais c'est parce que la vidéo, je pense que c'est quelque chose qui est beaucoup plus imposant en termes.
Oui, aujourd'hui la vidéo, c'est moi, ça nique tout mon forfait. Je peux pas. Une vidéo,
je veux dire, on a tout player, ça. Là, au jour d'aujourd'hui, je déteste cette expression. N'importe quel disque dur sur un ordinateur fait quoi? 3 gigas? Bon, 3 gigas, c'est énorme.
Oui.
Hein, par rapport aux chansons que tu peux mettre dessus. Après, le problème, c'est que tu sais pas où les écouter. Parce que si t'as ton CD et que tu mets ton CD dans ton ordinateur, après, t'es obligé d'avoir ton ordinateur.
Bon, bref, tu pourras pas refaire ce petit.
Commander des CD par Internet, moi, j'y crois.
Bon, te connaissant, t'auras la tchatch. Comme dit Sylvain,
L'important,
c'est la tchatch. Très bien, allez, fin de ce débat. Et on a une question d'un premier auditeur qui est du coup très en rapport avec ta chronique, Sylvain. Alors donc on a ouvert le courrier ce matin dans notre boîte aux lettres Cedex et parmi tout le courrier qu'on a reçu, une lettre d'Axel Rock qui en plus était très très bien écrite, qui nous dit justement, moi je comprends rien, le brick and mortar, le click and mortar, c'est quoi la différence et comment à la fin je dois préférer aller faire mes courses, voilà, est-ce que je dois, donc le brick and mortar c'est du
pignon sur rue, voilà, c'est la Fnac, c'est les magasins physiques quoi qui existent, voilà. Qui sont construits en dur quoi.
Le click and mortar, c'est entre les deux, c'est que tu peux acheter ou commander en ligne, je crois, mais tu peux acheter dans un magasin physique et puis après il y a les purs sites internet qui ne font que du en ligne,
oui,
et qui ont même pas de magasin physique comme Amazon.
C'est le commerce électronique, ouais.
Alors du coup, vous comment vous préférez consommer? Est-ce que vous irez dans un vrai magasin à l'ancienne, enfin à l'ancienne?
Bah là, c'est la logique. Enfin, c'est même une logique en tant que client. Si t'achètes quelque chose sur un enfin dans un magasin qui n'existe pas physiquement, comment tu fais déjà un pour recevoir ton colis
ouais.
Et deux, comment tu fais pour avoir la garantie si t'as un souci quoi?
D'accord. Donc toi, t'es plutôt brick and mortar, comme on
dit. Bah, c'est un peu logique.
Dans un magasin physique.
Bah oui, pour, enfin, tu vois, si t'achètes un magnétoscope, je préfère aller chez Darty ou Boulanger, quoi.
D'accord. Mélissa, toi, tu me disais que t'étais justement, t'étais Amazon et tout ultra, ça te bottait bien le côté,
Ouais, j'aimerais bien, mais après, j'ai pas trop confiance. C'est vrai que, t'imagines, t'envoies ton paiement, imagine, t'as rien. Genre, le mec, il t'envoie pas le livre.
Ah ouais,
genre
c'est
tu
vrai.
Fais quoi?
T'es pas sûr de.
Je pense que Amazon, tu vois, c'est une grosse boîte américaine. Comment tu les
comment ça marche le paiement d'ailleurs? Ouais. Tu vois,
bah t'envoies une lettre.
Tu leur fais tu leur fais un chèque
ou un virement
ou tu leur fais un virement ouais.
Oui, mais alors du coup c'est la loi.
La banque, tu vois.
Du coup c'est la loi américaine même pour la garantie.
Oui, mais un jour on pourra payer par ta carte bleue si c'est sécurisé un jour.
Ouais, je pense qu'il y a un jour il y a des lecteurs de carte bleue pour les particuliers qui sortiront qu'on branchera sur nos ordi.
Ouais, ah, je pense que c'est ça. Ça me paraît logique. Quoi. Ouais,
comme un lecteur disquette quoi, tu vois.
Ah ouais, pas idiot.
Bah, vu qu'il y a des lecteurs disquettes partout, pourquoi pas un lecteur carte bleue dans nos ordinateurs.
Ouais, c'est vrai.
On a tous des B5.25 pouces libres, tu vois. Tu mets un lecteur de carte bleue là-dedans.
Ouais, c'est vrai. Ça pourrait le faire.
Fibre, comment tu consommerais toi?
Alors, instant confidence. J'ai déjà acheté en ligne.
Oh, vas-y, raconte-moi.
Mais alors je suis un fan de Japanime.
Attends, il faudrait c'est marrant. Si on avait pu, j'aurais bien mis un petit son genre coin du feu, tu vois.
Non, je suis un fan de Japanime et je vais chaque année au salon à Toulon qui s'appelle le Cartoonist, qui est un salon de gens qui aiment beaucoup l'animation japonaise.
C'est t'as des gens qui se réunissent pour du manga.
Ils se déguisent. Bon, on préfère une émission là-dessus, c'est assez ouf.
Ah ouais, bizarre.
Et donc les CD, alors quand je vais écouter une musique d'un CD d'un dessin animé japonais en version originale,
bah, tu vas chez ton cam.
C'est introuvable à la Fnac, mais justement là-bas il y a des fournisseurs, ils donnent leur carte et grâce à une adresse que j'ai qui s'appelle fibrotig@minitel.net, j'ai réussi à leur écrire au Japon.
Ah ouais.
Et ils m'ont livré donc des CD, voilà, Nadia, le secret de l'eau bleue, l'opening, voilà. Donc incroyable. Je suis hyper content. J'ai fait des achats. Alors c'est plus cher. Effectivement, il y a le petit côté transpiration. Est-ce que la poste va l'amener en bon état? Et que faire? Qu'est-ce qui va se passer? Mais quand ça se passe, il y a un petit côté magique de ça vient du Japon.
Ah ouais, pas mal.
Et j'aurais pas eu plus.
Tu peux aller chez ton cam hein, pour ça. Je veux dire, ça sert les librairies quand même.
C'est à côté d'ici.
C'est vrai. Mais c'est quand même, il y a une petite magie comme tu dis du commerce par internet qui est un peu l'aventure quoi.
Et puis en plus, c'est avec tous les comment s'appelle les petits autocollants sur le ouverts par les douanes, c'est passé par les îles Caïmans,
tous les timbres et tout.
C'est un peu magique.
Ok, bon bah écoute, mon petit Axel Rock dans la team, on est plutôt brick and mortar pour l'instant, mais on désespère pas qu'un jour il y aura des solutions en ligne.
Moi aussi, je suis brick and mortar l'âme parce que je ne peux pas me passer du conseil du vendeur.
Ah ouais, c'est vrai.
J'en ai trop besoin.
Ouais. Bah ouais. Ça, il n'y a pas sur Internet un conseil de vendeur.
Bah non, tu peux pas. Tu peux pas comparer, tu sais pas lequel est le meilleur, toutes les caractéristiques techniques.
On pourrait utiliser des forums qui existent déjà pour essayer de gérer des forums par rapport à un produit pour que des gens donnent des avis sur leur.
Bah, ce qui est bien, c'est quand t'as un pote ou quelqu'un sur Usenet qui a déjà acheté le produit. Là, tu peux lui demander s'il marche.
Si vous me permettez.
Ça, c'est des mecs vraiment influents, tu vois, c'est des mecs.
Si vous me permettez, il y a l'effet parisien du reverse conseil ou.
Attends, l'effet parisien du reverse conseil.
C'est-à-dire, tu prends un vinyle extrêmement snob, tu l'apportes devant le vendeur et le vendeur, il dit. Ah, toi, t'as un connaisseur, tu vois. Et là, t'as une petite étincelle que tu peux pas avoir avec un vendeur automatique.
Un vendeur automatique. Peut-être qu'un jour, les vendeurs automatiques sont intelligents.
Oui, et puis ils vous diront, quel goût, monsieur?
Bah oui. Et puis ils vous donneront des conseils par rapport à vous. Enfin bon, bref, on peut toujours rêver. En tout cas, on va continuer avec Fibre qui va nous parler, du coup, de la grande nouveauté de 97, le DVD.
Sujet numéro 2.
Êtes-vous vraiment prêt pour le DVD?
C'est marrant, le DVD comme nom. Bref.
Bon, tout le monde en a entendu parler, hein, ça vient d'arriver aux États-Unis. Ce sera pour l'année prochaine, malheureusement, en France. Mais bon, il y a des gens qui aiment bien faire dans l'importation ici. Le support qui va remplacer votre magnétoscope dans le salon, je veux parler du DVD. Donc DVD pour Digital Versatile Disc.
Ah ouais.
Et vous sentez déjà que dans Versatile, il y a le spectre du multimédia interactif, ce serpent de mer qu'on nous vend depuis 10 ans et qui nous déçoit depuis 10 ans. Donc le DVD, c'est un peu le laserdisc du pauvre. Pauvre parce que tout le monde peut se le payer et il est un peu plus petit. Il y a des experts, alors il y a déjà des experts en DVD qui m'ont dit oui, mais dans le laserdisc, il y a une chaleur dans l'image que tu as pas dans le DVD. Ouais, moi j'ai regardé, il y a aucune différence. Donc la qualité d'image est parfaite. Je ne vais pas vous en dire plus parce que c'est l'argument majeur, tout le monde va vous saouler avec. Je vais vous parler de tout le reste, un peu ce qui va changer un petit peu nos habitudes si toutefois le DVD arrive jusque dans votre salon.
Ouais, parce qu'on est une émission multimédia, mais un peu de société aussi.
Exactement. Donc, on a une nouvelle génération de supports. Donc, un mini point évident, mais on va se faire avoir. C'est-à-dire que je vais pas vous faire un schéma technique, mais on peut pas mettre de VHS dans un lecteur DVD.
Non, pas besoin de schéma technique.
Alors, vos trois saisons de Friends enregistrées avec les pauses pubs au milieu, ben, vous n'avez pas investi dans l'avenir parce que vous ne pouvez plus les regarder. Donc, c'est assez fou parce que les amoureux de la vidéo, il y en a. Ils ont des murs tapissés de VHS. Ben, ils peuvent prendre un bulldozer et les envoyer parce que ce n'est pas le futur.
C'est
affreux, mais on va dire que c'est un peu le discours de Sylvain. C'est-à-dire on est au service de la consommation. C'est un objet qui est plus petit.
Ouais.
Alors, moi, ça m'a vraiment marqué. Parce que les coffrets sont tout petits. C'est-à-dire, vous voyez, quand on vous offre une VHS ou même un coffret VHS, vous avez un truc mastoc, quoi. C'est, vous avez pour votre argent. Là, c'est tout petit. Et moi, je me dis.
C'est marrant parce qu'on est attaché au truc physique, quand même.
Voilà. Et est-ce que si, dans le futur, parce qu'effectivement, ça devient numérique, eh ben, si ça devient de plus en plus petit, est-ce qu'à Noël, on va se faire des cadeaux tout petits? C'est-à-dire, est-ce qu'on va, on va tendre une carte, tu vois? C'est complètement nul, ça va être hyper décevant, quoi. Non, il faut y penser. Je sais pas comment.
Genre comme une cartouche de Game Boy, quoi, des petits trucs.
Voilà,
comme ça.
C'est ça, ce sera tout minuscule, quoi. Également, alors là, petit clin d'œil à Daz, c'est un peu la fin de ce qu'on appelle l'ère mixtape. C'est-à-dire que, on a vu ça un petit peu avec le CD-ROM. C'est-à-dire, le CD-ROM, ça a un peu enterré l'idée de compile de cassettes qu'on se faisait. Et ben là, la VHS, on peut enregistrer, mais le DVD, c'est mort. C'est-à-dire, on peut pas enregistrer a priori le DVD. Alors peut-être dans un futur, on pourra, mais pour l'instant, c'est pas possible. Alors,
ça va être compliqué de graver des trucs comme chez toi, quoi. Ouais. Tu t'imagines que ton,
voilà,
tu fais un truc énorme, ça coûte hyper cher, non?
Bah oui.
C'est comme une presse de vinyle, quoi. C'est un truc.
Bah j'imagine le truc.
Bah ça doit être un peu plus simple quand même.
Mais... Bon bref, en tout cas, on peut pas enregistrer, Fibre.
Les matchs de foot, les pornos du premier samedi du mois, la saison 4 de Friends. Bah si vous pouvez pas les voir en direct, vous pourrez pas les enregistrer. Donc va falloir les acheter. Et je crois pas qu'on vende des DVD de matchs de foot, donc je sais pas comment on va s'organiser.
Ouais, c'est clair.
Donc c'est un certain art de la compile en fait qui disparaît.
Ouais.
Voilà, on a tous notre petite cassette compile et il va disparaître. Mais surtout, il y a une conséquence très importante, c'est que comme on peut plus regarder en décalé grâce à l'enregistrement, l'homme du futur, je dis l'homme de cette année en fait, et l'année prochaine.
Oui, mais on imagine l'homme des années 2000 quasiment.
Voilà, il va regarder Friends. En achetant le DVD.
Ouais.
Mais par exemple, il va acheter un DVD avec 12 épisodes. Il va pas regarder un épisode. Il va en regarder peut-être deux, peut-être trois. Attendez, il va peut-être en regarder quatre. On va imaginer. Mais déjà, est-ce que le plaisir sera le même? Tu vois?
Passer ta soirée à mater des séries télé.
Ouais, quatre épisodes d'affilée. J'appelle pas ça une détente, j'appelle un marathon. Tu vois? C'est vraiment, je parle aux créateurs, c'est est-ce qu'il faut pas d'ores et déjà repenser les formats narratifs pour une diffusion continue de masse, tu vois. C'est-à-dire se dire, il y aura pas.
Les gens vont regarder les séries en série, quoi.
Il y aura pas 30 épisodes dans la saison 4 de Friends, mais il y aura un épisode de 30 heures, tu vois.
Ah, c'est fou, ça.
En 97, aujourd'hui, on peut regarder un peu les rediffs un petit peu de Dallas ou du Prisonnier.
Ouais.
Mais est-ce que l'homme du futur, justement, qui sera habitué à ces longs formats, est-ce qu'il pourra regarder Friends en épisode? Est-ce que ce sera supportable d'avoir un début, un générique au bout d'une heure? Est-ce qu'il va pas dire, je pas être déstabilisé? Est-ce que la télé existera encore? Puisqu'on aura l'habitude de regarder des séries en gros blocs, est-ce qu'on n'aura pas, par exemple, une chaîne? Je sais pas, admettons la 112.
Ouais.
Et il y a Friends en boucle toute la journée, tu vois.
C'est
un cauchemar. Comment
on va faire. J'imagine.
Faut aimer les rires enregistrés.
Ouais, j'imagine ça. Le mec qui gère la chaîne. Si ça existe un jour, c'est pas gagné.
Alors là, j'aborde un sujet super grave. Vous allez dire, je m'en fous, mais c'est très grave. Les DVD, ils sont zonés.
Ça veut dire quoi?
Ça veut dire que, alors déjà, l'impossibilité d'enregistrer, ça fleurait un petit peu le complot des majors façon l'homme à cigarette, si vous regardez X-Files. Donc les DVD sont zonés. C'est-à-dire que les DVD vendus en Europe ne peuvent être lus qu'en Europe.
Hein?
C'est-à-dire que si tu achètes un DVD aux États-Unis, tu reviens avec ton DVD sous le bras qui vient de New York, tu le mets dans ton lecteur DVD européen, tu pourras pas le lire.
Mais non, mais comment c'est possible?
C'est normal.
Tu peux pas bloquer une cassette VHS. Tu peux pas bloquer un CD audio. Comment tu peux bloquer
un DVD? Regarde, si tu achètes ta Super Nintendo aux États-Unis, t'arrives avec ta cartouche américaine, tu la rentres pas dans ta Super
Nintendo.
Oui,
parce que physiquement, c'est pas la même. Mais là, c'est la même chose.
C'est une déclinaison.
Oui, mais là, c'est un disque.
Ouais, mais te rends compte, t'es prisonnier, en fait.
Mais non, mais quand t'achètes une VHS, si tu vas aux États-Unis et que tu la ramènes, si ton magnétoscope, il est pas NTSC ou je sais pas quoi.
Bah, tous les magnétoscopes sont NTSC, pas le CCAM aujourd'hui.
Ils sont pas NTSC.
Non, mais attends. Les mecs, il a cru qu'on était en 92.
Il y a une différence entre format. Là, on parle de deux formats différents, pas le CCAM. Là, c'est les majors qui disent on ne veut pas que les Américains regardent leurs DVD sur des DVD.
Là, c'est important. Fibre. Donc, Fibre, tu vas reprendre.
Ça passe même pas en vert ou en rouge à l'écran. Pas du tout.
Le digital, malheureusement, verrouille numériquement les œuvres d'une façon qui était impossible avec l'analogique.
Ah, c'est ça.
Ah ouais, d'accord.
Et on peut craindre que la SACEM et assimilée nous empêchent de consommer ce dont ils ne toucheront pas les droits. Voire même, comme dans la loi Toubon, qui vient d'être votée, nous imposera de consommer français qu'on le veuille ou non. C'est-à-dire, fini vos petits DVD de Chuck Norris, vous allez regarder du De Funès.
Ouais, on va trouver un truc sur Internet pour contourner tout ça.
La question est un peu de dire aujourd'hui, avant d'acheter un lecteur DVD, acceptons-nous ce contrôle culturel si en échange on a une qualité d'image incroyable ? Je vous pose la question, vous y répondrez tout à l'heure. Mais de l'autre côté, alors autant là je parle de contrôle culturel, il y a aussi une ouverture possible, il y a des possibilités fantastiques. Alors un DVD, je ne vais pas vous faire de schéma non plus, mais ça ne se rembobine pas. Et ça ne se lance pas non plus comme ça directement, c'est-à-dire on le met pas dans une machine et on voit le film. Il y a ce qu'on appelle, alors terme technique, un menu.
Ouais.
Donc c'est une interface graphique interactive qui permet plein de choses. Donc il y a plein de choses. On arrive dans un nouveau monde.
C'est compliqué ton DVD là. Hein.
Alors les films sont chapitrés, donc c'est comme des livres. C'est-à-dire que vous pouvez décider de voir l'Empire contre-attaque à partir du moment où Luke est sur Dagobah. Tu vois.
C'est génial.
Spoiler. Attends, pour les mecs qui l'ont pas vu, c'est relou, tu vois. C'est relou.
Désolé, mais l'Empire contre-attaque, c'est quand même 83. Donc bon, si tu l'as pas vu, t'as un souci là.
Bah ouais, mais bon, c'est compliqué.
Alors très intéressant. Et là, je suis presque ému de vous le dire. C'est vraiment, ça va changer vos vies. Vous pouvez voir les films en plusieurs langues, notamment en VO et en sous-titrage. Et ce, sur le même support. C'est-à-dire, vous n'avez pas une autre VHS avec un VO. C'est-à-dire, vous avez le même DVD et vous avez la VO. C'est-à-dire que la valeur culturelle est ajoutée est fantastique. Vous pouvez voir les films en VO. Ah,
ouais, mais ça, c'est pour les gens qui comprennent l'anglais. Enfin, faut le vouloir aussi.
Hein. Mais non, mais il y a les sous-titres.
Il y a les sous-titres.
Non, mais tout le monde regarde en VF. Qui va aller, la VO.
C'est un truc très fibre. C'est le mec qui achète ses CD audio japonais en import. C'est un mec qui il se déguise en manga, ça tout le long, tu vois.
Non, mais attendez, vous rigolez. À Paris, tous les films passeront en VO.
N'importe quoi.
Ce que j'adore avec Fibre, c'est que ça fait 4 ans qu'on fait cette émission et à chaque fois il pense que c'est la France le mec, tu vois. Ouais. Alors qu'il est c'est un putain de.
Toi tu dis à Paris tous les cinémas passeront les films en version originale.
Vous verrez. Rendez-vous.
Ok, d'accord.
Alors, encore plus intéressant, chaque DVD comporte un bonus. Alors, c'est quoi un bonus ? Ce sont des. Donc, c'est sûr, on parle toujours du même DVD. Hein.
Donc, physiquement, sur la même galette.
Sur la même galette, il y a des documentaires sur la production du film, des scènes coupées, des fins alternatives, des interviews, des concept art. En un mot, pour le prix du film, vous avez les coulisses et parfois des heures et des heures de
visionnage. Ça, par contre, c'est génial.
Alors si vous adorez un film, je veux dire, le DVD, c'est le paradis, quoi. Dans ce cadre, enfin, je veux dire, si vous aimez le film, le DVD, c'est vraiment un incontournable. Je veux même vous dire, la seule angoisse qu'on a, c'est est-ce qu'on aura le temps de tout voir, tu vois. Tellement il y a de choses à voir.
Bah, c'est vrai.
Alors là, m'a posé la question, et sur ces bases, comment imaginer le futur ? Et il m'a même toussé, si tu pouvais parler d'Internet, donc mec, avec un modem 28 kilobits, tu télécharges Spice World en 40 minutes.
Oui, mais je vous rappelle qu'on essaie quand même de l'émission du numérique, alors Internet c'est
pas,
important. Hein.
Je parle même pas de téléchargement, ouais. Le terme qu'on a parlé tout à l'heure, mais qui, sur le monde, sur la Terre, ira payer un serveur Internet pour mettre un film qui pèse des milliers de mégaoctets en ligne pour qu'un autre fou le télécharge pendant des heures et des heures et des jours. Ah oui, c'est encore moins cher et moins long d'aller le récupérer, même si le mec, il habite au Japon, tu vois. Je veux dire, aujourd'hui, c'est inimaginable. Donc, partant sur ces bases, d'après mon analyse, le successeur du DVD, donc dans quelques années, la prochaine version, ce sera la chose suivante. Ce sera un produit très petit. Peut-être de la taille d'un ongle. Voilà.
Un disque gros comme un Smarties, quoi.
Voilà, c'est ça.
D'accord,
exactement.
Là, c'est possible. Bah, attends, au point on en est entre le laser
disque. Tu vas perdre tes disques. Ah, je sais plus où je l'ai mis, il est dans une poche. N'importe quoi.
Un produit qui sera plus qu'un film. Alors, je pense à un film interactif. Ou pourquoi pas, alors, je sais, vous allez rire, en réalité virtuelle.
Quoi?
Why not?
J'ai toujours pas compris ce que c'était la réalité virtuelle.
T'as vu le cobaye
vous
ou
en
pas?
Parlez, mais non, j'ai rien
bah,
vu.
Bah, Showgirl en réalité virtuelle, moi, je veux bien. Voilà.
Ce sera un produit qui sera de moins en moins facile à pirater, car très contrôlé par les producteurs. Ouais. Je prédis, et là, mark my words, les séries télé vont disparaître. Ah, laissant place à des films-séries continues de 7, voire 10 heures.
N'importe quoi.
On en discutera, ça c'est intéressant comme point de vue.
Mais... En tout cas, chose sûre, ce sera plus du tout compatible avec les DVD, car la nouvelle génération est là pour nous faire consommer.
Ah, merci Fibre. C'est fou ce DVD, donc c'est ça, c'est l'acronyme.
Voilà.
Ça offre quand même beaucoup de possibilités, c'est très disruptif, comme on aime le dire dans l'émission.
Le truc des contenus additionnels et des versions originales sous-titrées et tout, je trouve ça génial. le chapitrage et tout, c'est tout ce qui nous emmerde avec un magnétoscope.
Mais t'as déjà des VHS de making of en plus du film.
Mais là, t'as un menu. En fait, t'as un menu, tu peux y accéder quand tu veux.
Parce que le chapitrage.
La VHS, moi, je fais mes sortes de petites mixtapes comme dit Fibre. Ce qui est relou, c'est que je dois faire des marque-pages à la main, je dois les écrire sur l'étiquette pour dire bon bah le film il est là, la pub elle est à ce moment-là. Et puis ensuite, quand je rajoute des petits bonus qu'on a, j'ai pas un menu interactif qui m'y emmène automatiquement.
T'es quand même un furieux. Ça veut dire que toi, sur ton magnétoscope, le truc est synchronisé. Je veux dire, t'as toujours le bon timing. Parce que moi, je l'ai jamais bon, tu vois.
Ah bah oui, non mais je veux dire,
tu fais, ça démarre jamais à zéro, moi, en fait.
Si t'es mixé de vidéo bien, tu les fais pas, Daz.
Bah moi, je les fais pas. Personnellement, je les fais pas. Mais moi, la question que j'ai, c'est ça veut dire que ce film là sur ton truc là, ton DVD, c'est à dire que quand tu vas le voir et le revoir et le revoir et le revoir, là il y a pas de bande, donc ça va pas s'abîmer.
Alors,
ça sera.
Alors il y a quand même un truc, faut pas le mettre sur pause. Si tu mets sur pause trop longtemps, c'est un laser et il fait un trou dans le disque. Mais sinon,
merde, ouais. Voilà. C'est ouf.
Ça, c'est hyper dangereux ton truc là.
C'est le numérique, hein. Mais sinon, effectivement, on peut théoriquement le voir de nombreuses fois et ça marche.
Mais alors, parce que c'est quoi la durée du film maxi? Parce que nous sur les VHS là, c'est actuellement 240 minutes.
Ce qui est compliqué. Moi, je suis un gros fan des laserdiscs parce que je suis asiatique, donc on a tous des laserdiscs à la maison.
Ouais, bah, c'est génial.
Et le truc, c'est que sur les
laserdiscs, tu dois le retourner.
Voilà, tous les 40 minutes, comme c'est pas compressé par rapport au DVD, tu dois le retourner. Donc moi, je sais que le DVD, je sais que c'est une moins bonne qualité d'image. Je sais pas si les gens accorderont beaucoup d'importance à la résolution, la qualité d'image plus tard. Mais l'intérêt, c'est que je peux regarder un film en entier sans avoir à changer de face. C'est quand même
mal. Cool. Mais ça veut dire aussi qu'on va se retrouver avec des films qui dureront 3 heures, quoi.
Ouais. Non, surtout, on va tous devenir des encyclopédies d'un film, tout connaître à chaque fois sur un film, à dire, je connais les secrets de tournage, j'ai vu les bandes annonces, j'ai
D'ailleurs,
vu la fin.
D'ailleurs, tout à l'heure, j'ai dit à Copa, vous êtes dit, comme ça, comme si le film était sacré, ça va, et c'est des films, hein. Non, mais c'est vrai, quoi.
Faut pas raconter les histoires sur,
un point intéressant que Fibre a soulevé, c'était, cette durée. Est-ce qu'on aura le temps de regarder à la chaîne des DVD, des séries comme ça tout le temps? Est-ce qu'il y a des formats qu'on peut inventer? Alors Fibre disait, est-ce qu'on peut faire des films de 7 heures ou des films qui se font à la suite, ou est-ce que à l'inverse on pourrait faire des séries avec plus de budget et même des acteurs de cinéma qui jouent dedans et qui seraient des séries télé mais qui se regardent avec la même qualité qu'un film? Qu'est-ce que vous pensez de ça, de regarder des trucs en série? Mais Fibre parlait d'un marathon de séries.
Je regarde déjà X-Files sur M6.
Ouais. Ils en passent 3 épisodes à la suite, hein.
Ouais. Ça te fait ta soirée, ça, hein.
Bah c'est ça me fait pas soirée, et 2 c'est déjà pas mal, tu vois.
Ah, ça s'appelle comment ça déjà?
La trilogie du samedi, c'est ça, non?
Ouais. Mais ça, je crois que ça vient juste d'être lancé.
Non, mais il y a que les geeks et les nerds qui regardent 3 épisodes d'affilée samedi soir.
Ouais, c'est vrai que c'est un peu chiant.
J'ai plein de gens autour de moi qui regardent, hein. Franchement.
Bah, nous, avec Sylvain, on est plus
cool,
bain douche
série.
que X-Files.
Bah ouais, mais tu regardes pas X-Files avant d'aller au bain douche?
Non, bah non.
Non, mais, alors, pour moi, c'est, j'aime bien X-Files. J'ai regardé quand ça passait, genre, le vendredi, je crois.
Ouais, on parle bien aux frontières du réel, là.
Oui, aux frontières du réel.
Ouais, bah, dites-le comme ça, parce que.
Non, mais Fibre, il est très VO. Fibre, il est très VO, tu vois.
Excusez-moi. Et, effectivement, enfin, c'était cool, c'était excitant le vendredi soir. T'attends, tu veilles un peu. Ouais. Tout d'un coup, au cœur de la nuit, t'as cet épisode. Et je veux dire, là, t'es quoi? Tu te mets le samedi soir, tes parents, tu regardes
aux frontières du monde. Interdit au moins de 12 ans, tu vois.
Et d'ailleurs, c'est le deuxième point intéressant que Fibre soulevait, c'est que, avant, avec les VHS, quand tu loupais l'épisode, tu t'essayais de l'enregistrer, tu pouvais programmer, je me rappelle, avec le Showview, le PDC, c'était plutôt intéressant pour programmer l'enregistrement.
Mais maintenant. Ouais, ça aussi, ça démarrait jamais à l'heure.
Bah oui.
Ça démarre jamais à l'heure.
Mais si on a plus de VHS, qu'on a que des DVD, comment tu fais quand tu loupes un programme? Donc tu vas l'acheter. Mais ça veut dire que quand tu diffuses, tu peux regarder quand tu veux des séries, il y a plus de linéarité, en fait, de la télé.
Je crois qu'il va falloir accepter l'idée. Enfin, c'est mon idée, hein. Il va falloir accepter l'idée qu'il y aura plus ce rendez-vous. C'est-à-dire ce rituel de moi, j'ai une série qui est le vendredi soir par exemple, je vais la voir, c'est ma joie, je l'attends. Non, il y a une série qui vient, je la regarde, je la consomme, je consomme
tu,
même
tu
10 heures.
Tu l'as à disposition, quoi.
Voilà, c'est peut-être, je sais pas si on aura du plaisir à faire ça, peut-être
en fait,
ce sera la
mais
fin.
Non, mais en fait le DVD c'est pas la fin de la VHS, c'est la fin de la télé, quoi. C'est la fin peut-être. Des émissions, c'est la fin du
la
diffusion.
Ouais. Moi je pense que la VHS elle est là pour rester justement parce qu'elle va répondre à ce besoin d'enregistrement de pouvoir lire le truc en différé. T'es obligé de garder ça. Donc peut-être que t'auras genre des DVD qui feront VHS en même temps ou tu vois dans le même parce que le magnétoscope finalement tu peux pas t'en passer.
Bah c'est le très logique ce que tu dis, mais en tout cas technologiquement c'est pas prévu.
Non mais attends, t'as vu tous les gens qui ont des VHS?
Mélissa.
Enfin, je veux dire, le marché il est énorme, il y a des vidéoclubs, enfin tu vois genre ça peut pas tuer ces gens.
Attends, tu vas chez ma mère, elle prend des murs de VHS, des cassettes, elle découpe les jaquettes, elle fait elle-même ses cassettes et tout, enfin c'est elle va pas
les
jeter ça à la
poubelle. Voilà.
Je respecte ta maman, elle est comme moi, elle fait les choses proprement.
Bah la preuve.
Mais du coup ça fait un nouveau lecteur à mettre sur le magnétoscope, ce truc là.
L'idée c'est de substituer le magnétoscope va enfin, d'après ce que disent les gens, hein, il va mourir petit à petit et il va avoir ce lecteur DVD. Mais ça va s'imposer selon les spécialistes et je pense, vous en serez d'accord, par la qualité d'image. C'est-à-dire que la qualité d'image est tellement belle que...
Oui, c'est plus pratique. La praticité, je suis d'accord.
Est-ce que vraiment on va se toucher pour avoir une meilleure qualité d'image?
Non, mais je pense
que... Il faut déjà que nos télés soient prêtes pour avoir une meilleure qualité d'image. J'imagine les mecs, un jour, ils font un truc qui faut 4 fois, 5 fois la résolution du DVD. Est-ce qu'on va vraiment...
Non, mais là, c'est overkill.
C'est overkill. Déjà, sur le PC, on est déjà sur des résolutions, tu vois, de plus que le DVD.
Non, 800, ouais,
800 par 600, 800, je veux dire,
600, c'est... Ouais, s'il te plaît, quoi.
Vous savez, quand vous regardez une série sur M6, par exemple, aux frontières du réel, vous avez ce petit logo M6 insupportable, vous avez deux coupures pub. Ouais. Bon, je veux dire, là, on va vers une valorisation des produits.
D'accord.
Quoi.
Mais voilà. moi, je suis d'accord avec toi pour tout ce qui sera contenu vendu. C'est-à-dire qu'effectivement, les nouveaux films vendus, on n'aura plus les cassettes, on aura des DVD. Par contre, pour le reste, je pense que tu auras toujours des cassettes vierges à acheter pour enregistrer tes émissions, quoi.
Bah oui, j'imagine bien.
Et les vidéoclubs, ils vont faire comment?
Ils vont passer DVD club.
Alors, Sylvain, c'est intéressant que tu parles des vidéoclubs. Parce que, du coup, vu qu'on fait un peu une prospective de 97 et de tout ce qui va arriver, mais dans le futur, dans notre radar, dans nos scanners, il y a quelque chose qui pourra changer peut-être le visage de la vidéo. Et ça s'appelle Netflix.
Ah, j'ai vu, ouais.
C'est aussi stupide qu'Amazon, ce truc.
Netflix, c'est pas pareil. Donc, en gros, si tout va bien, ça sort fin août de cette année, s'ils ont pas de retard. Et donc, Netflix, c'est quelque chose qui va vachement plaire à Mélissa. Qu'est-ce que c'est que Netflix? Eh ben, c'est un système de location par la poste de DVD. Ça veut dire qu'on va pouvoir...
La petite magie, tu vois, du truc que tu reçois du Japon.
Tu vas pouvoir commander des DVD sur un service et tu les reçois par la poste et tu peux même les renvoyer. Ça, tu les loues, en fait.
Non, mais attends, c'est américain, Netflix. Du coup, ça va pas arriver en France.
Bah, imaginons.
Avant que ça arrive en France, ça va être 3 ans.
Bon, alors, imaginons qu'on a un e-netflixeo.fr qui sort. Voilà. Parce que Sylvain va nous pitcher avec sa start-up. Ouais. Et en gros, tu passes par la poste, avec ce service. Et pour moins cher, tu peux avoir tous les DVD que tu veux et que tu peux renvoyer sans bouger de chez toi.
Ça, c'est trop bien.
Qu'est-ce que vous imaginez? Ça vous botte ou pas? Mais ça la fond.
Mais qu'est-ce qui fait foi? Parce que tu sais qu'un vidéoclub, quand tu rends en retard, t'as des pénalités. Est-ce que là, c'est le cachet de la poste qui fait foi?
Bah, sûrement, ouais.
Si tu le rends un samedi, la poste, elle ferme et tout. Enfin, comment tu sais que tu payes pas le week-end?
C'est pas poster les colis et tout, c'est
ouais, c'est chiant.
Moi j'ai
et puis ça même, va, il y a des postes partout.
Il y a des vidéoclubs,
il y a des vidéoclubs à tous les coins de rue.
Franchement, est-ce que t'as le temps? Est-ce qu'on a le temps de regarder autant de choses de toute façon? Ça va, on a d'autres choses à faire, non?
Vaut mieux aller en soirée, t'as raison.
Je comprends pas comment ce modèle peut survivre face à Canal+, par exemple, parce que Canal+, vous payez un abonnement comme pour Netflix, mais eux ils coproduisent des films, donc vous avez quasiment les films. Dès qu'ils ont les droits, ils peuvent sortir. Donc avant les DVD.
Ouais.
Donc il n'y a pas d'intérêt.
Bon, alors, c'est comme Amazon, c'est le catalogue.
Ça coûte 200 francs par mois.
C'est comme Amazon, c'est le catalogue.
Alors Mélissa, elle soulève un point intéressant, c'est que le catalogue est fou. Et on peut pousser plus loin. Imaginons que Netflix cartonne. Les gens s'envoient des DVD dans tous les sens, etc. Et que, comme dit Fibre, à un moment, on aura du contenu à gogo, il n'y aura plus de linéarité, on passera notre temps à regarder des séries tout le temps. Imaginons que Netflix va plus loin et qu'en fait, ils font un forfait unique à volonté, un peu comme nos restaurants chinois actuels, et qui disent, voilà, pour, je sais pas, 40, 50 francs par mois, vous pouvez recevoir tout le contenu du catalogue Netflix et le regarder à gogo.
50 francs par mois pour du truc?
Bah, c'est une start-up, c'est comme Sylvain, c'est en gros les mecs qui cassent les prix, ils font plus tard.
Tu payes 200 francs pour Canal+, et t'as pas de truc à volonté.
C'est comme ça qu'ils vont disrupter le truc. Bah oui. Vous dites.
On est l'émission des start-up qui disruptent le truc.
D'accord.
Bon, je suis optimiste. Imaginons que Netflix dit, bon, pour 80 francs par mois,
t'as accès à
tous les DVD à volonté. Est-ce que c'est un truc qui vous botterait, ou est-ce que comme Fibre, vous êtes un peu en panique en disant, mais tous ces DVD, il y a trop de contenu, j'aurais jamais le temps de tout regarder?
Tu peux pas paniquer là-dessus. Tu peux être que d'accord. Je veux dire,
toi t'es partant, toi.
Ah bah 50 francs par mois. Bon, aller à la poste, machin. Ça c'est chiant. Mais c'est pour ça d'ailleurs que le prix devrait être un peu plus bas par rapport à l'emmerdement que serait de te déplacer pour aller à la poste. Mais d'un autre côté, tu te déplaces déjà pour rendre tes cassettes au vidéoclub.
Okay. Bon, Daz partant. Sylvain.
Moi, je pense déjà qu'il y aura pas assez d'utilisateurs parce que c'est un truc de cinéphile, quoi. Franchement, tout le monde n'aime pas le cinéma, tout le monde n'aime pas regarder des trucs et tout.
Non, mais il y a 2-3 séries, mais imagine qu'il y a plus de séries qui.
Ouais, puis je sais pas, les contenus audiovisuels comme ça, on est en 96, quoi. On est en 97, c'est un truc de vieux, quoi.
Ouais.
Vous avez vu les progrès de la 3D? Le futur, c'est le multimédia, hein. C'est pas votre caméra, votre machin. Franchement,
tu vas pas jamais au cinéma voir un petit blockbuster américain?
Bah si, mais justement, je vais au cinéma de temps en temps, mais c'est il y a des contenus 3D là qui sortent. Vous avez vu les progrès des jeux vidéo? On va avoir un jour des contenus comme ça qui seront plus du cinéma, quoi. On a plus besoin du cinéma, moi je pense. Dans le futur, il y aura plus de cinéma.
Donc toi, il y a même pas de débat sur Netflix.
Ouais.
Mélissa, toi, t'es partante pour le forfait à volonté.
Si seulement le catalogue est vraiment international.
D'accord.
C'est-à-dire quoi? Tu veux des films asiatiques
Non, mais s'il y a que des films français, par exemple, et quelques films américains.
Mais non.
Tu vois, c'est
non, mais il faudrait tout. Il faudrait des films, des séries, des documentaires, des dessins animés, un peu tout ce qui est vidéo, en fait. Mm-hmm. Non? Fibre, il y a un forfait vidéo ultime à volonté.
Alors, juste pour justifier ma réponse, en 1984, quand Canal Plus se lance, leur argument, c'est de dire, plutôt que de vous payer des vacances, payez-vous Canal Plus cette année et vous aurez tous les matchs de la première division et un porno le premier samedi de chaque mois. Et il me semble que en France, en tout cas, Canal Plus, il a une offre imbattable sur tous ces aspects-là. Et donc, si Netflix fait du porno et magiquement, je sais pas comment il pourrait faire du foot.
Ouais.
Dans ce cas-là, à mon avis, il peut tout exploser. Sinon, juste sur le film et les séries, c'est pas un facteur.
Donc pour toi, l'avenir de Netflix, c'est le foot et le porno. Sinon, ça ils pourront pas réussir.
Non, s'il y a en plus le porno et le foot,
du peuple de France.
Parce qu'aujourd'hui, le porno et le foot, malheureusement, on ne peut les avoir que par Canal+. Si on arrive à les avoir d'une autre façon, bon, peut-être, mais sinon, voilà.
Bah le téléchargement, comme disait Thierry Lhermitte.
Ouais, on a parlé, les films, c'est impossible.
Oui, non, mais moi j'y crois à la piste de Thierry Lhermitte, tu vois, de dire à un moment, si tu veux une vidéo, tu cliques dessus.
Et ben on l'invitera, Thierry Lhermitte, à la prochaine émission et
t'attends
tu verras.
T'attends 4 heures pour regarder un film, excuse-moi, mais c'est pas
non, ça. Non, mais pas 4 heures, mec, plutôt 4 jours. Hein.
Bon, ok, ouais, très bien. Bon, en tout cas, on aura l'occasion, on se donne rendez-vous dans 10 ans quand Netflix aura peut-être tout conquis, en tout cas. Merci en tout cas, Fibre, pour cette chronique et on va passer tout de suite à la deuxième FAQ. Alors c'est une question FAQ qu'on a reçue via ICQ, qui est un peu notre logiciel qu'on utilise pour chatter entre nous sur 404, qui marche bien. C'est une start-up israélienne, je crois.
Ouais, bah moi je disais ICQ, alors du coup, ok.
Et ICQ. Non, en fait c'est ICQ, c'est un jeu de mots.
Je te cherche.
C'est un jeu de mots.
Ah ok, je comprends.
Voilà. Et donc c'est un de nos Patreons, c'est David Larose, son surnom c'est Pentaru, qui nous dit, alors voilà, vous parlez vous avez sûrement parlé du DVD et de la qualité d'image. Moi je suis un gros geek, je suis un fan de qualité d'image et surtout de résolution. Et il nous dit, c'est quoi votre résolution en 97 MDR?
MDR, ça veut dire.
Je vois pas la blague.
Ouais, c'est mort de rire.
D'accord, mort de rire. Mais pourquoi il dit MDR, votre résolution MDR?
La résolution, nouvelle année, nouvelle résolution. Et là, okay. C'est ton écran. C'est une blague.
800 par 600.
Ah, ouais, pas mal comme blague. Franchement. Ok, bien joué, Pentaru. Donc, votre résolution en 97, qu'est-ce que ça va être du coup?
Eh ben,
d'un point de vue, on va dire les deux. Allez, on fait les deux pour faire la blague. C'est quoi ta résolution d'écran d'Az et c'est quoi ta résolution pour 97?
Eh ben, ma résolution d'écran pour 97, j'espère que.
Ah non, on différencie les deux. On fait une résolution 97 en général, genre je sais pas, arrêter de fumer, m'acheter un.
Ben justement, aimez-moi, c'est ça. D'accord. Ma résolution pour 97, c'est d'avoir un PC, un vrai PC.
Ouais.
Et justement de pouvoir pousser la résolution jusqu'au 800 par 600 qui est.
T'as les Yamaha pour ça, les écrans Yamaha sont bien.
Bah ouais, mais bon, ils pèsent 23 kilos et puis surtout ils coûtent cher.
Bah c'est des clones de Mitsubishi, mais c'est.
Bah non, mais t'es gentil, j'achète pas un écran 1290 francs, c'est le prix d'une console, c'est le prix d'une PlayStation.
Franchement, ça se garde. Bon, en tout cas, ok. Bon, tu augmenter ta résolution.
Ouais. 800 par 600, c'est le futur.
800 par 600.
Ouais. De la haute définition.
Enfin, le jour où t'as une carte graphique qui pourra animer un 800 par 600.
Oui, mais ça, après,
on en parlera. Est-ce qu'il y en a l'un de vous, une résolution de l'année, une résolution d'écran, à me dire?
Moi, je vais rester en 640 par 480 parce que les finances en ce moment, c'est pas top. Et ouais. D'ailleurs, je vais continuer, moi, pour ma résolution à piquer les CD AOL de minutes gratuites dans les boîtes aux lettres de mes voisins pour continuer à bénéficier des accès
des minutes. Bon plan de Sylvain.
Et ouais, c'est mon petit bon plan, ça.
Ah ouais, c'est vrai qu'en fait, si t'enchaînes les CD-ROM, moi, tu peux les piquer dans les librairies, tu sais, dans les magazines genre Joystick ou PC Pratique, t'as pas mal de trucs de démo et tu peux récupérer à chaque fois 15 minutes, 10 minutes, 1 heure d'AOL.
Ok, bon plan.
Bon plan 97. Ok, Fibre.
Alors, moi aussi, ma résolution, c'est 640 par 480 parce que c'est la résolution des jeux vidéo à l'heure actuelle.
Ouais, ok.
Point and click, tout ça. Donc, je suis bien à l'aise.
Donc, c'est même pas la résolution du DVD qui est en 480, qui est plus petite encore. Ah non, c'est du 480, mais c'est en 16/9. Ok, d'accord. Bon, c'est à peu près ça, quoi.
Et au niveau du travail, donc vous savez que je travaille dans les jeux vidéo.
Ouais.
Donc, je vais pas vous parler du online parce que personne ne sait ce qui se passe en ce moment. Mais en gros, il y a une bataille depuis quelques années qui est 2D contre 3D.
Ouais.
Voilà, j'étais férocement contre la 3D, je trouvais ça nul, moche, sans avenir, une mode, tout ça. Là, c'est quand même un peu de s'imposer.
La PlayStation, ça cartonne quand même.
Voilà, ouais, mais bon, la console, c'est encore un autre marché, moi, j'aime pas trop.
Le fan de
non,
PC.
Mais vous savez que je suis fan de PC. Donc, cette année, je vais peut-être un peu commencer à voir comment je peux travailler en 3D si je peux. Mais c'est compliqué, ça a l'air du boulot.
Bah, franchement, tu regarderais Jason et Toshinden, convaincu, je comprends pas.
Bah, oui.
Mélissa, quelle sera ta résolution?
Ma résolution, c'est de passer plus de temps sur Internet cette année.
Ah ouais, ouais. Mais fais gaffe, parce qu'à la fin, tu vas passer ta vie dessus.
Non, mais tu sais, j'aime quand même le papier. Tu sais, je travaille pour un magazine papier. Alors,
bah ouais.
Mais non, mais en fait, on en reçoit du coup des CD gratuits, donc je pourrais t'enfiler, Sylvain, si tu veux.
Trop bien, trop bien.
Mais donc ouais, j'ai vraiment envie de creuser parce que je connais encore, je suis encore un peu nouvelle pour par rapport à vous. Donc je vais creuser ça.
D'accord.
Tous ces sites que j'ai pas encore découverts.
Et résolution d'écran, parce que je vois que t'es très attaché à ton téléphone, c'est quoi, c'est le 32 par 32 pixels, c'est ça?
C'est ça, j'ai mon Nokia là, c'est compliqué.
Je veux dire, 32 ouais, par 32, tu vois le nom de la plante, tu vois le numéro de téléphone, ah, tu vois pas le...
Je joue au serpent.
Ah, c'est que tu peux jouer au serpent?
T'imagines le serpent sur un écran plus grand, c'est impossible à jouer ça.
un serpent DVD, un truc genre en 480.
Et en 3D en plus.
C'est le seul jeu vidéo auquel je joue en fait, le serpent.
Très bien. Eh ben, on va rester avec toi, Mélissa, parce que toi, tu vas nous parler d'une raison qui te fait rester beaucoup sur Internet. Ouais. Ce sont les gens.
Sujet numéro 3.
Votre intimité va changer la face d'Internet.
Oh là là, quel titre de chronique, Mélissa. Notre intimité, rien que ça.
Rien que ça.
On t'écoute, ouais. On est tout
oui. On est une émission multimédia et une émission de société.
Ah, ok.
Donc, les gens, Internet, je pense qu'on peut faire un truc. Enfin, bref. Vous êtes donc ici, tous en avance sur moi. Parce que moi, je reste encore avec ma petite connexion où je me connecte 10 minutes par-ci, 10 minutes par-là. Il a fallu que je fasse réviser mon Windows 95 pour avoir la version avec Internet Explorer, parce qu'elle n'était pas dans la première version. Ah. Je préfère ça à Mosaic Fibre s'obstine à utiliser.
Quel geek ce fibre.
Et comme je ne suis pas occupée, comme vous, à jouer à Final Fantasy VII sur PlayStation, parce que je n'ai pas de PlayStation, je peux enfin lire ce que vous m'envoyez par courrier électronique. Genre vraiment. Tous les liens que vous m'envoyez. Parfois, je vais sur The Microsoft Network, que Sylvain appelle MSN pour se la péter.
Qu'est-ce qu'il se la pète, Sylvain?
C'est comme ça qu'on l'appelle entre
depuis qu'il parle, ouais, depuis qu'il parle avec des start-upers, sa vie a changé. Mais je préfère utiliser Internet Explorer et naviguer sur Yahoo, c'est quand même beaucoup plus classe, puis c'est pas là où il y a les plus jeunes, quoi. Alors, j'ai de plus en plus de fenêtres ouvertes. Et donc, au-delà de deux, en fait, je suis obligée de fermer les autres. Si vous avez des astuces pour ça, parce que vraiment, je galère à charger mes pages, quoi. C'est vraiment compliqué.
Bah, désolé, pour l'instant, ça n'existe pas.
Putain, mais j'espère trouver un moyen, quoi. C'est vous qui cherchez les trucs. Bref. Donc, j'ai cliqué sur tous les liens hypertextes que vous m'avez transmis et je suis enfin sortie de ma routine sur Internet que j'avais mis en place depuis quelques mois. C'est vrai qu'en tant que journaliste dans la presse papier, bon, je me rends quand même, j'essaye de voir ce qui se fait sur Internet. Donc, je vais sur le site du New York Times, le site de la BBC, le site du Monde. C'est toujours le seul média français à avoir.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Site internet. Mais bon, ça bouge pas encore trop. Je lis toujours la presse, hein, parce que bon, papier, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est vrai que c'est quand même assez cool de lire sur papier.
Ça restera.
Mais il faut envisager toutes les possibilités, parce que je me dis quand même, il y a un truc qui est en train de se passer là. Genre, les sites, c'est vrai que de médias, ils sont un peu pourris, mais je me dis, il va se passer un truc. Et puis, j'ai toujours ce JT en tête de 95 qui parlait d'internet. Et vraiment, je me dis, il y a quelque chose à faire, quoi.
Internet, c'est le nom des nouvelles autoroutes de l'information qui parcourent le monde avec un simple clavier d'ordinateur. Vous pouvez donc avoir accès pratiquement à toutes les banques de données et tout savoir sur tout ou presque.
Tout savoir ou presque.
Les autoroutes de l'information.
Les autoroutes de l'information.
Je vais la garder, celle-là. Ouais. Elle est bien.
Je pense que ça peut marcher. C'est assez clair comme image.
C'est le mec de Microsoft. Je crois qu'il l'a inventé, la Bill Gates.
Ouais. Franchement, belle image, quoi. Parce qu'en fait, ce qui me frappe, en fait, c'est que France 2 en parle déjà quand même depuis 2 ans. Mmh. Et que il se passe assez peu de choses, enfin, dans les médias. Et du coup, je me dis, il y a tous ces chercheurs qui publient des trucs, il y a des médias qui commencent à s'y mettre. Et genre, qu'est-ce qui se passerait en fait si nous, on se mettait à publier des trucs genre sur nous ?
C'est-à-dire nous, les utilisateurs normaux ?
Nous, les utilisateurs lambda, tu vois. Parce D'accord. que là, il parle des sites d'hôtels, il parle encore des chercheurs américains, on parle toujours des chercheurs américains. Mais en fait, je me dis, en fait, si c'était nous, quoi. Alors, vous allez me dire, non, mais on s'en fout de ta vie.
Bah ouais.
Daz. Voilà.
Vas-y, Daz, dis-le.
Bah, on s'en fout de ta vie, mais voilà. Enfin, qu'est-ce que...
Attends 2 minutes.
Ok.
Donc, il y a quelques jours, après avoir traîné sur Amazon, donc mon site préféré, pour savoir tout ce qui se vend, je sais que là, moi aussi, un habitué d'Amazon, et à commander quelques trucs que je fais livrer chez mes amis aux États-Unis, je suis tombée sur la page d'un Edward qu'un ami américain m'avait envoyé. Et donc je le trouvais assez beau gosse parce qu'il y avait une mini photo de lui en fait sur le sur sa page. Je sais pas comment il a fait.
Il a mis une photo de lui
sur sa page noire.
Ça va le Lego.
Je peux dire qu'on voit pas grand chose, mais tu vois, je me suis dit bon attends, il a essayé.
Photo de quoi? C'est une photo que lui il a prise ou c'est une photo qu'il a prise de lui?
Non, c'est une photo que quelqu'un a pris de lui. Comment tu veux prendre une photo de toi, Daz?
Le mec se met en scène.
Non, mais c'est normal, tu peux pas prendre une photo de toi-même, Daz.
Mais c'est quoi l'intérêt de mettre ta tête sur
Internet? C'est ta photo de vacances, quoi.
Moment aux frontières du réel, ça se trouve, c'est passé une photo de lui.
Ah ouais, c'est vrai que j'ai même pas pensé à ça. Moi, je fais trop confiance en Internet.
Mais ça continue sur notre ami.
Et en fait, au-delà de sa photo où on voyait rien, en fait, il explique qui il est. J'aurais dit j'ai 37 ans et en fait je travaillais dans un bureau mais en fait j'ai décidé de faire du surf.
Bah c'est un CV.
Non,
c'est pas genre t'as pas des lignes avec des dates, c'est genre le mec il écrit des trucs comme s'il écrivait son journal intime quoi.
Ah d'accord.
Et genre il raconte son histoire et en fait c'est assez bien écrit et en fait c'est assez long sur la page, tu peux dérouler ta page.
Il écrit régulièrement.
Il écrit régulièrement et en fait à un moment il a commencé, au début c'est que du texte comme ça brut et à un moment il a commencé à sauter des lignes et genre à mettre des dates.
D'accord.
Et genre à dire bon bah parce qu'au début il a raconté son histoire et en fait il a rafraîchi il a refait sa page.
Ouais.
Et donc il met des nouveaux blocs de texte avant.
D'accord.
En fait. Donc il refait son code HTML à chaque fois.
Sur une nouvelle page ou sur la même?
Sur la même.
Non,
en fait.
Et ce qui est bizarre c'est qu'il met au-dessus. En fait il empile les entrées.
Des trucs mais il laisse la description en fait à la fin.
D'accord.
Et en fait, il met les nouveaux trucs les uns au-dessus des autres. Et en fait, du coup, j'ai commencé à lire ce truc, dans le mauvais sens, parce que du coup, les trucs les plus récents, ils étaient au début. Et en fait, ça m'a fait quand même un truc un peu mystérieux. Je me suis dit, et j'ai commencé à apprendre des trucs sur lui. Donc, je me suis dit, mais c'est qui ce type? C'est quoi ce truc? Enfin, je savais pas où j'étais, parce que c'était pas des trucs de jeux prédictifs, des chercheurs du CERN ou des sites de.
C'est juste un mec qui raconte
d'hôtel.
Sa
vie. Un type normal,
c'est,
quoi.
Ouais, c'est un mec qui racontait sa vie et il racontait pas trop mal. Et du coup, je me dis, putain, c'est trop bien. Et je me dis, faut que je fasse pareil.
Raconter ta vie.
Raconter ma. Non mais parce que moi mon truc c'est que non mais attends, tu connais pas mon problème c'est que je travaille pour un média papier et genre si tu veux écrire des papiers un peu plus longs tu peux pas genre tu étais obligé de te limiter à 5000 signes et genre si tous les détails que tu avais sur ton papier tu peux pas les publier nulle part.
C'est vrai que sur internet imagine
j'apprends à construire une page parce que je sais pas encore comment on fait je peux publier ces
trucs. Oui, mais ça sera des trucs de journaliste. Ça sera pas de ta vie.
Non, mais de l'info. Mais après, le truc, ce qui était bien avec lui, c'est qu'au début, il a voulu faire un truc un peu informatif. Et en fait, il a commencé à raconter des détails. Et c'est là que c'est devenu intéressant.
En fait, il a fait des itérations.
C'est là que je me suis, attaché à lui.
Il a fait comme le truc de faire ça, c'est, il log de l'information.
Bah ouais, mais c'est hyper intéressant.
C'est ce qui se passe quand les programmes, ils loguent leurs informations.
C'est un weblog. Un weblog.
Log internet, ouais.
Mais on va en parler parce qu'il y a un mec qui commence à parler de ça. C'est un DAS, tu fais genre précurseur et tout. Bref, je suis allée sur Amazon, encore une fois, pour essayer de trouver un livre. Parce qu'en fait, j'ai cherché des pages, mais j'avais plus de connexion. Donc je me suis dit, bon, faut que t'aies un livre, comme ça tu peux le consulter tout le temps, apprendre à coder. Et genre, dès que t'arrives sur ton truc pour coder, tu sais comment faire. Donc en fait, il y a un mec qui a sorti un livre qui s'appelle Creative Killer Website, un américain.
Creative Killer Website, on le mettra sur le forum pour
sachez
les auditeurs.
En fait, c'est le livre le plus vendu sur Amazon, toutes catégories.
Ah bon?
Même au-dessus de la littérature et tout ça.
Ouais, mais qu'Amazon, c'est un gros truc de geek.
Il y a que des geeks dedans.
Mais c'est quand même fou parce que le truc qui est le plus vendu, c'est quand même le livre pour construire des pages. C'est logique en même temps.
Ah ouais.
Donc je me suis dit, je vais commander.
C'est un peu méta quand même.
Je vais un vendeur de pioche.
Je vais commander ce livre. Et en fait, le mec, il est designer et en fait, il en a marre que les pages, elles soient trop moches.
D'accord.
Blanches en Times New Roman, centrées, tout ça. Il en peut plus,
quoi. C'est la norme, quoi.
Ah ouais,
c'est la norme, mais en fait, il se dit, genre, c'est pas possible, il y a plein de trucs à faire, on doit pouvoir trouver mieux.
Forcément un start-upper.
Et donc, moi, je me suis dit, ok, je vais pouvoir faire ma page. Alors, je sais pas si vous avez vu le site du film Space Jam.
Ouais.
Genre, un truc de ouf. Genre, parce que justement, t'as plus que du texte centré.
Ouais.
T'as genre une petite image Space Jam et autour, t'as d'autres images et tu peux cliquer sur les images, non, ça renvoie vers l'équipe.
Ça, c'est un site dans 20 ans, il sera toujours, au top.
Ouais. Et genre, j'ai eu beau mettre I Believe I Can Fly pour essayer de coder. J'en suis pas du tout arrivé là. Hein. je me suis servi d'un logiciel de Microsoft qui s'appelle FrontPage.
Ouais.
Recommandé par des mecs à l'université de Grenoble. Et donc en fait j'ai juste fait une page blanche simple avec une police, enfin un truc hyper minimaliste en code, avec quelques voilà quelques bases de code HTML.
Minimaliste, fais gaffe, c'est pas non plus. Ça j'y crois pas trop au minimalisme.
Mais bon. Ouais, mais moi, enfin vraiment, en fait.
L'intérêt, c'est le langage riche.
Les trucs riches. Hein. Tu sais, ceux qui mettent leur page noire et tout avec du bleu, j'arrive pas trop à lire. Donc je me suis dit, bon, vas-y, fais blanc et noir.
Okay, on va pas. Il faut commencer simplement.
On va pas se prendre la tête, tu vois. Et donc en fait. Chaque fois, Microsoft te propose de le mettre en ligne. Et donc, pour l'instant, je suis encore en mode hors connexion. Je tente de, tu vois, de construire ma page.
Mais
et
tu
après,
le mets en ligne où, de toute façon?
Bah, sur Internet.
Attends.
Mais en fait, là, le truc, c'est que j'ai une limite.
Impatient de savoir quand même.
Non, mais j'ai une limite d'espace sur serveur. Et en fait, comme je pense à avec ce surfeur, avec sa photo là, j'essaye de mettre des photos, mais j'y arrive pas. J'ai pas assez de place, enfin, tu vois.
Ouais.
Pour l'instant, j'ai mon fichier texte, tu vois.
C'est un budget, hein.
Voilà. Mais en faisant ça et en lisant ça, je me suis dit, c'est fou, quoi. Et je me dis qu'on peut imaginer on en parlait tout à l'heure avec la start-up d'information, on peut imaginer un Internet où il y aurait vraiment plein de pages où les gens parleraient de ce qu'ils font, quoi.
C'est-à-dire plein de journaux intimes.
Voilà. Genre, tu raconterais ta vie.
Chaque mec qui raconte sa vie, il est obligé de savoir comment mettre en page son truc sur Internet.
Bah, franchement, il y a des livres déjà pour apprendre.
T'auras que des techniciens, en fait.
Non, mais il y a des livres pour apprendre. Après, il y a des mecs, c'est leur métier, tu vois, de construire des pages.
Mais ça touchera jamais monsieur tout le monde, c'est ça que je veux dire, en fait.
Non, mais regarde,
je sais pas, moi, j'ai réussi avec un livre. J'ai réussi avec un livre. Les gens, ils aiment bien Internet, il se passe un truc. Enfin, tu vois, il y a du savoir dessus.
Non, mais t'as pas un profil normal, mais ça, t'es.
Non, mais tous les vieux qui ont des passions, genre la pêche. Tu vois, ils vont se retrouver, ça se trouve, ils vont construire leur page, ils vont dire, moi, j'aime pêcher, je sais pas quoi, la carpe le dimanche.
T'imagines la page de la passion des gens, quoi.
Et t'imagines un mec à Bordeaux et un mec, je ne sais pas où, en France, et ils discutent.
Oui, mais il faut qu'ils aient la connaissance technique pour faire ça, c'est impossible.
Franchement.
Mais, attends, Mélissa,
si t'arrives à faire des VHS avec des pochettes et tout, et que tu te fais chier à faire le timing, moi,
je le fais parce qu'on propose, parce que, tu vois, tu le fais parce que, ta télécassette qui te propose de découper des images qu'ils ont déjà mis dans leur magazine et de faire tes jaquettes. Donc
oui,
il faudrait quelque chose qui te permette
ça à la frontpage. C'est archi simple.
Microsoft, tous les gens qui ont Microsoft, ils ont ça, quoi.
Ouais,
c'est vrai.
Un jour, ils vont peut-être ouvrir et dire c'est quoi ce truc et tenter et voir que c'est ce qui permet de faire des pages internet. Et donc, je me dis que nous, au nom de Studio 404, cette émission de société multimédia, on doit penser le futur du multimédia.
Mais oui, la prospective, le futur.
Par exemple, Fibre, je sais que tu as une page pour raconter des histoires déjà.
Ouais.
Bon, c'est encore hyper basique, mais tu as quelques histoires mises en ligne. Ça bouge pas tout le temps ton site, là. Mais imagine, tu le ferais régulièrement.
Il a du mal. Il a du mal à imaginer.
Tu vois pas.
Fibre, il a du mal à imaginer mettre des textes en ligne.
Non, mais
ça peut t'arriver.
Parce que tu penses qu'il y aurait personne qui viendrait sur
Alors,
ta page, quoi.
Moi, en fait, j'ai fait cette page parce que je suis un peu surpris qu'on en parle, mais ouais, parce que je croyais qu'il était caché.
Bah, tu nous l'as envoyé. C'est juste que j'en parle. Non, je vous en parle.
Même s'il était caché, tu sais que Mélissa, elle est plutôt pas mal pour questionner les gens.
Effectivement,
hein, elle est plutôt forte.
Effectivement, j'ai un site dans lequel je mets des histoires, mais c'est des comptes rendus de parties de jeux de rôle, et c'est juste pour que mes joueurs, on est 4 joueurs, regardent ce qu'ils ont fait la dernière fois, et puis ils arrivent aux séances, mais c'est pas du tout au public.
Hein. Imagine, tu romances ça, tu vois.
Alors, je trouve que, je trouve ça a aucun intérêt parce que imagine t'as plus qu'une heure à vivre et t'as le droit entre lire une biographie d'un mec super connu et d'un mec inconnu. Bah je préfère le mec super connu, il a peut-être fait des choses incroyables, tu vois.
Ouais, mais t'as pas qu'une heure à vivre là. Imagine un internet où t'as une connexion qui
dure
pas 3 heures.
Non
tu
mais
vois.
Pourquoi alors qu'il y a tu vois il y a des éditeurs qui éditent des biographies de gens qui ont fait des choses fabuleuses. Pourquoi lirait-on la vie de mecs inconnus? Est-ce que la vie de Edward là elle est intéressante? Il est dit.
Bah elle est intéressante.
Mais ça elle trouve un truc.
C'est une intimité, en fait, c'est voir l'intimité. Je sais pas si t'as vu ce truc de réalité, télé-réalité, là, le The Real World.
Ouais, sur MTV.
Voilà.
C'est fou, ce truc-là.
Bah, tu vois les gens vivre. Il y a grosse audience aux États-Unis. Franchement.
C'est pour les gens qui ont
ça raison.
Je comprends pas. Ça reste quand même.
Mais ça, alors.
Non, mais Sylvain, il a un site sur le vélo, par exemple.
Alors, imagine, on continue voilà. le tour de.
Je pense qu'il fait des sorties vélo régulièrement, il pourrait raconter ses sorties vélo. Tu vois. Là, tu pourrais faire des critiques de jeux vidéo.
Ouais, mais ouais.
Tu les racontes à qui, bordel?
Bah, déjà à nous, franchement, parce que là, dans les émissions, on n'a pas le temps de se faire tout. Enfin,
après,
on en parle un peu.
Tu peux avoir un système qui se répand de manière un peu genre tes amis, puis les amis de tes amis.
Non,
mais génial.
Arrêt,
alors, tu racontes toute ta vie sur. Mais alors, de quoi vous parlez quand vous voyez après? Tu vois, c'est ça la question.
Ah, c'est clair.
Non, mais là, regarde, on se voit tout pour chaque émission. Vous n'avez pas le temps de parler de tous les jeux vidéo.
C'est vrai.
Ça n'a aucun intérêt.
Mais
je suis sidéré.
Alors, on laisse Mélissa finir et après, tu vas dire chronique criminelle.
Okay, vous y croyez pas pour les gens lambda, mais
imaginez
pour les gens un peu connus.
D'accord.
Genre, par exemple, Bill Gates qui raconte des évolutions de Microsoft. Que ce soit pas via la télé ou via un magazine, tu vois. Genre, il le raconte lui-même tout seul.
Genre c'est que, assez ouf, quand même. Que les gens connus aient leur propre accès direct aux médias.
On parlait des Spice Girls. Imagine une Spice Girls, elle dit toutes les tenues qu'elle porte régulièrement, tu vois. Je pense que toutes les petites meufs qui sont fans des Spice Girls, elles liraient, tu vois.
Voilà, pour moi, tu vas un peu loin, là. Des meufs qui s'intéressent à la mode sur Internet, en masse.
Désolé. N'importe quoi. N'importe quoi. Là, c'est même plus le futur.
Non, mais moi, franchement, ce web-là.
C'est une dystopie, ce que tu nous
proposes. Non, mais ce web-là, moi, franchement, je veux augmenter mon forfait pour y passer du temps parce que c'est d'accord. Genre. Vous savez que je suis curieuse et que j'aime bien savoir toutes les petites histoires de chacun. Je vous demande toujours. Et ben, là, franchement, j'aurais même pas à me demander. C'est genre, j'aurais déjà des détails parce que les gens, en fait, enfin, vous avez peut-être jamais eu de carnet de journal intime, mais le journal intime, c'est quand même un truc que tout le monde a fait plus ou moins différemment à une époque de sa vie, tu vois.
Mais pas pour les autres.
Oui, mais là, sur Internet, il n'y a pas encore grand monde. Donc, ça en fait, t'as toujours le truc du journal intime de, en fait, quelqu'un pourrait le lire, mais personne ne le lit jamais, parce que c'est ton journal intime qui est dans ton tiroir. Là, c'est un peu pareil, sauf que le risque, il est plus grand.
C'est un journal non intime.
Et franchement, ça, moi, j'y crois d'accord. à mort, quoi.
Un génie.
Donc, connais quelqu'un qui pourrait être intéressé par ce concept, il s'appelle la DGSE.
Non, mais tu racontes pas un truc, tu dis pas que tu vas tuer quelqu'un, ou tu vas juste raconter ta vie. Bah,
attends, toi, tu dis ça, mais il y aura des déséquilibrés, c'est évident.
Bon, allez, laissez Mélissa finir, parce que je sens que vous y croyez pas du tout à ce web des gens, à ce web de l'intime.
Donc, moi, en fait, je suis quand même en train de construire ma page, hein. Vous irez peut-être pas. J'aurai peut-être pas de trafic, je m'en fous, mais au moins, déjà, j'apprends à construire une page internet, ce qui est quand même c'est pas mal.
Ça te servira plus
tard,
je pense.
Faut le faire, hein. Je sais pas si toi, Das, tu l'as fait, mais chacun ici devrait le faire. Et je raconte parfois des trucs intimes. J'ai vu que quelques mecs émo faisaient ça aussi. J'en ai trouvé des nouvelles. À chaque fois que j'en trouve une nouvelle, je suis trop contente.
Moi, je pense qu'il doit y avoir que des émo et des geeks qui racontent leur vie.
Je passe 30 minutes à essayer de remonter hyper vite pour voir les trucs, les passages les plus croustillants, parce que sinon après j'ai plus de connexion. alors j'ai appelé ma page Miss Press. Voilà, parce que je me suis dit américain et tout. J'ai un peu peur que, voilà, si Internet devient aussi fou qu'on le pense ici, j'aurais un peu honte de ce pseudo dans 20 ans.
Bah, d'un côté, sur Internet, t'as qu'un pseudo, quoi. C'est pas comme si tu mettais ton vrai nom, ton prénom, là, ça devient dangereux.
Ouais, mais bon. Jamais ça arrive. Je sais pas si je réussis à mettre ma photo comme le surfeur, tu vois, c'est ça qui est.
Lui, il a mis son nom et son prénom, le surfeur?
Non, il avait juste mis Edward.
Edward. Ah, okay. Son nom, son prénom et sa photo.
Ouais. Alors, du coup, Mélissa, tu crois très fort à ce web des gens qui se partagent leur intimité, qui s'espionnent les uns les autres, mais qui laissent aussi des petites traces, quoi.
Bah moi, en fait, je pense que tout le monde a des passions déjà, et t'as envie de trouver d'autres gens qui ont des passions. Ouais. Et genre raconter ta passion, ça prouve que t'as une passion.
Ouais.
Et donc ça permet d'en trouver d'autres assez facilement, et surtout à peu près loin de toi. Ouais. Alors qu'avant, tu vois, on a tous des clubs de, enfin, des clubs de sport ou des clubs de jeux ou des, enfin, tu vois, fibre, t'as tes quatre
des
mecs.
Des trucs un peu locaux.
Vois, mais en fait, ça nous ferait sortir de ce cercle-là et ça.
Donc ça serait des clubs.
C'est fou.
Comme un club d'échecs, mais en plus grand, quoi.
Genre. Un club de passion.
Moi, j'y crois pour les passions, ouais.
Alors, Sylvain, parce que vous avez été quand même très dur avec Mélissa, parce que effectivement, elle a peut-être fait la chronique la plus avant-gardiste de tous. Genre, le web des gens normaux. Qui racontent leur vie, qui la partagent. Toi, donc Sylvain, t'étais pas d'accord du tout, sauf au moment où elle a parlé de passion,
si,
de thématique.
Sur les passions, j'y crois pas trop sur l'intime, mais sur les, tu vois, moi, j'ai bien envie que Fibre, il m'explique ces trucs où il se déguise là en manga à Toulon, je sais pas
mangas,
quoi.
Mangas, on dit mangas.
En mangas, ouais. Et par contre, j'ai pas envie qu'ils me disent que hier il s'est baladé ou qu'il a pris une douche, tu vois. Ça n'intéresse personne.
Tu veux pas savoir
forcément.
Tu veux pas savoir ce que Fibre fait dans les chambres d'hôtel.
Non, surtout pas.
Mais ça arrivera forcément. Enfin, je veux dire,
ça arrivera forcément au sens où tu es d'accord avec Mélissa, du coup?
Mais non, ça arrivera forcément que des gens, même en partant d'une passion,
ouais,
se mettent à raconter leur vie dont toi tu te fous.
Ouais.
Et du coup, tu vas lire du mauvais contenu sur ton truc de passion. Je vais sur un truc qui va parler, par exemple, de pêche à la ligne. Et à un moment donné, le type, pour arriver jusqu'au moment de la pêche à la ligne, il va me raconter sa journée. Mais moi, j'ai envie de virer sa page parce que je m'en fous de sa journée. Ça m'intéresse pas.
Mais c'est ça votre problème.
Moi, je veux des techniques.
De démocratisation d'Internet, de front de pêche, de traitement de texte. Si on donne à tout à chacun le pouvoir de s'exprimer, ben, Internet, ça va être rempli de caca, quoi.
C'est n'importe quoi.
Oui. Ben, oui. Alors,
Fibre.
Autant, je vais pas aller loin. J'y crois pas du tout au journal intime. C'est zéro intérêt. Autant le journal intime de Bill Gates, je trouve ça assez intéressant et même subversif. Pourquoi? Parce que Mélissa ne le prend pas mal. Moi, j'aime pas trop les journalistes et j'aime pas trop les agences de com.
C'est pas la même chose, donc.
Oui, c'est pas la même chose.
Pour moi, c'est la même chose.
Pour moi, c'est une sorte de magma de gens qui se la pètent, qui sont les interfaces entre le bas peuple et justement des gens comme Bill Gates.
Ouais.
Et je me dis, si Bill Gates, il se met via un outil qui est Internet, par exemple, à nous parler directement, peut-être qu'on n'aura plus ces interfaces qui finalement décident de normes qu'on n'a pas décidées nous, tu vois.
Donc du coup, tu retournes à une communication, un message brut.
Voilà, c'est ça. Et si effectivement, parce que j'ai mon temps de vie est limité et j'ai décidé de lire que des biographies ou des journaux intimes de gens qui vont m'apporter des choses, qui ont réussi, etc. Bon, Bill Gates, par exemple. Et si effectivement, il n'y a pas le prisme de l'agence de com derrière, mais il y a juste Bill Gates qui nous parle, alors là, c'est très excitant. Alors, je trouve ça génial.
Alors, ce que je vois, c'est qu'entre la chronique de Mélissa et vos questions, il y a peut-être deux choses qui se dégagent. C'est un, est-ce que vous liriez des gens inconnus ou des gens connus? Et deux, est-ce que vous liriez des contenus thématiques intéressants ou juste de la vie de tous les jours? Ça nous fait quatre configurations. En gros, il y a les gens connus qui raconteraient quelque chose de thématique ou de pratique ou d'utile, ou des gens connus qui raconteraient leur vie, mais ça existe, c'est la presse people, donc il y a quand même quelque chose. Et de l'autre côté, option 3, des gens inconnus qui raconteraient des choses utiles. Imagine, tu partages des tutos. Tu dis, voilà, comment monter ton PC, comment apprendre le Nunchaku, comment faire la roulette de Zidane. Bon, même si je pense que l'année prochaine, on va pas faire vraiment long feu pour notre mondial, mais bon, ça, c'est un autre débat. Ou alors, t'es un inconnu qui raconte juste ta life, ton intimité, genre je pense que ça, j'ai mangé ça, j'ai regardé une série télé sur un DVD.
Je pense que ça c'est le plus pourri en fait, parce que
donc ça, tu crois pas à tous. Il y a des configurations dans lesquelles ça marche.
Un inconnu, voilà, un inconnu qui raconte des trucs très intéressants et très spécifiques à un sujet, ça peut être intéressant.
Ok.
Maintenant, un inconnu qui raconte sa vie d'inconnu, qui est un peu la tienne aussi.
Ouais. Ok. Enfin, moi, et quelqu'un de connu qui raconte quelque chose de sa vie, quoi. Imagine un mec genre le président des États-Unis.
Sa vie, c'est pas la tienne, tu vois.
Non, imagine le président des États-Unis. Il est sur un truc de petit blog et puis il raconte tout ce qui lui passe par la tête sans filtre. Ça t'intéresse ça ou pas?
Il y a déjà un sénateur aux États-Unis. Alors, hein,
bah oui, moi ça m'intéresse. Non, mais ça m'intéresse parce que la vie du président américain, donc
même s'il raconte des conneries.
Bah oui, mais parce que sa vie à lui, c'est quand même des convois de voitures, des limousines, des avions.
Clinton, il a déjà une boîte mail. Clinton, il a une boîte mail. Tu peux lui envoyer un mail à Clinton.
Ah bon, il répond.
Non, c'est pas. Attends, parce que là, il vient d'être élu il y a deux mois. C'est pas non plus.
Il répond juste aux stagiaires.
Ouais. Ça, c'est de la vie intime, tu vois. Est-ce que tu serais intéressé par la vie sexuelle secrète de Bill Clinton?
Mon Dieu!
Alors, je pense que raconter sa vie intime aujourd'hui, c'est une profonde perversion, même sexuelle, qui est liée, même, je pense, à une maladie mentale. C'est-à-dire que, je vais vous démontrer pourquoi. Parce que, aujourd'hui, quand vous avez, Voici, qui publie une photo non désirée ou une anecdote non désirée d'une star, la star fait un procès et demande 200 000, 400 000 francs en dommages et intérêts. Et je veux dire, c'est-à-dire à quel point c'est troublant quand ça arrive. Quand vous avez des gens qui font ça naturellement, sans demander de compensation, c'est qu'ils ont un grain. Ce sont des malades mentaux.
Donc ça veut dire que, genre, tu veux bien lire Voici pour voir des photos volées de Vanessa Demouy, mais si c'est Vanessa Demouy qui les montre elle-même, pour toi, il y a un souci.
Mais ça veut dire qu'elle a un.
Bah, elle est exhibitionniste.
Mais tu sais comment fonctionne la presse people en vrai ou... Mais non. Parce que c'est les stars qui donnent les photos.
Bah oui. Ah. Ouais. Mais d'ailleurs, c'est intéressant parce que Daz parle d'exhibitionnisme, parle aussi un peu Mélissa, mais peut-être que demain, bah, les gens seront plus exhibitionnistes et qu'ils font comme les people, ils se montreront, ils se raconteront. Quoi,
ils vont prendre des photos d'eux tous les jours comme ça pour le plaisir de mettre. Alors,
Daz, on va te leur dire, tu peux pas prendre des photos de toi. On va te le dire 35 fois. C'est des gens qui prennent des photos de toi.
Dans le miroir.
Mais non, mais il y a des retardateurs.
Oui, mais tu peux pas savoir le résultat, tu peux pas voir l'image de ce que tu vas prendre.
Tu cadres un peu, ça sera pas spontané, d'accord.
T'imagines l'autoprofil, le prix de l'autoprofil.
C'est du temps. Hein,
deux pellicules de 36 poses pour un autoportrait, ça fait un peu cher l'autoportrait, les gars.
Ça fera une série après.
Vous verrez, ça arrivera au bout d'un moment.
Il y a un truc intéressant quand même dans ce que dit Fibrotique, c'est que si ces gens ont un grain, peut-être que c'est aussi un peu thérapeutique, un peu cathartique de balancer sa vie comme ça. On sait pas où ça va aller, qui va le lire, comment les gens vont tomber dessus.
Un peu une bouteille à la mer.
Voilà, un peu une bouteille à la mer. Et puis, tu racontes ta vie et trois semaines plus tard, Mélissa, elle fait une chronique dessus. Il y a quand même un truc un petit peu magique de ça. Quoi.
C'est ce que Mélissa disait. Elle disait, il y a ce vertige de lire la vie des gens de la vie des autres de très loin et ça vous intrigue pas parce que moi Mélissa m'a donné envie ce Edouard je le connais pas mais si je vois qu'il commence à raconter sa vie un peu tous les jours et que sa page elle est rafraîchie qu'il empile des textes je suppose que Mélissa à la fin tu commences à le connaître un peu ses amis c'est complexe ou ses secrets
ouais. Mais non mais internet c'est déjà le bordel
oui
si en plus il va falloir trier la vie de gens qu'on connaît pas et dont on n'a rien à faire avec les vraies infos techniques sur par exemple la pêche à la ligne ou comment gagner à la belote. Moi je suis désolé.
Non mais moi par exemple sur ma page perso, je pense que je mettrais des liens vers d'autres pages perso.
Pour super. Dire genre...
Non mais comme ça tu trouves les pages perso que j'aime bien lire.
Mais toi, ça, tu t'en fous des pages perso. Mais ça on appelle ça une secte. Non mais c'est vrai. Non, regardez quoi. Lisez la vie de mes amis, lisez nos modes de vie, tout ça.
Dans deux ans, t'auras ta page perso.
Non, mais Mélissa, c'est super dangereux. Bon,
en tout cas, j'ai hâte de connaître l'avis des auditeurs dessus. Est-ce que vous pourriez ouvrir une page perso Est-ce que plus tard, quand ce sera peut-être plus facile, parce que là,
il faut quand même être un technicien.
Moi, commander un livre sur Amazon qui livre toujours pas en France, il faut scotiner 400 pages pour apprendre à coder en ASPX ou je sais pas quoi.
Truc en HTML,
avec des tables.
HTML.
Bon, espérons en tout cas qu'il y aura des langages ou des plateformes qui permettront de faire ça plus, de manière plus
simple. Peut-être une start-up de Sylvain qui fera ça.
Non, parce que de voleur, ce serait une vraie idée.
Construire ton site EO. On attend en tout cas vos réactions et, chers auditeurs, ce que vous feriez, en tout cas comme première page perso. On attaque tout de suite la prochaine FAQ.
FAQ.
C'est une question FAQ qui a été envoyée directement sur le topic de notre forum PHP Nuke, qui est envoyée donc par Arzel, qui est un de nos Patreons, et qui nous dit, voilà, moi j'ai un budget réduit d'étudiants, comment je fais pour rester connecté en déplacement? Attention, c'est différent, donc c'est spécial. Est-ce que je fais plutôt un Bebop? Est-ce que j'utilise un pager comme Tamtam ou Tattoo? Ou est-ce que je passe directement au GSM et je casse ma tirelire? Qu'est-ce que vous feriez, vous, pour rester... Imaginez, vous l'êtes un peu connecté à vos amis, connecté à des gens, mais sans être devant votre ordinateur. Lequel des trois vous utilisez?
Un beeper.
Alors, beeper. Donc, beeper, c'est le nom du pager d'Az.
Ouais, ouais. Nous, on dit beeper en France parce qu'on est français. Voilà. Ouais. Donc, tam-tam, t'as tous les trucs là, le machin de Motorola et tout.
Ouais, tu utilises ça, toi?
Ouais, avec une télécarte pour quand on t'appelle. Tu vois, tu peux même convenir d'un code avec tes amis.
Ouais.
Pour que s'ils affichent, un certain code s'affiche sur ton beeper, et ben, tu peux directement savoir de quoi ça parle. Et donc, tu peux ne pas rappeler tout de suite.
Ouais.
Parce que ça veut dire quand même qu'il faut t'enchaîner à une cabine téléphonique, quoi.
C'est un peu galère.
C'est un peu chiant.
Donc, même si c'est un peu plus limité qu'un, les
bah,
premiers GSM ou qu'un
Bebop, c'est la moins chère.
Le beeper. OK. Ouais. Le beeper. Mélissa, est-ce que tu préfères, un GSM, on sait que t'as un Nokia maintenant un peu avancé, mais est-ce que t'as un budget étudiant? Tu fais un Bebop, un pager ou un GSM?
Mais tu fais pas de budget, tu t'es en déplacement.
Bah ouais.
Non mais tu, enfin les gens ils sont pas à ce point-là quoi.
Je pense que notre auditeur est un gros geek et qu'il a besoin d'être connecté aux gens toute la journée.
Médecin ou pompier ou un truc comme
non,
ça.
Non mais je pense que les gens commencent.
Étudiant. Enfin je veux dire t'as ton cercle de potes. Ouais. Et ils savent quand tu pars, tu leur dis.
Ouais c'est
tu
vrai.
Tu vois, tu les préviens.
Plus simple, sinon, c'est la CB. on n'a pas fait mieux pour relier les gens. Vrai. Bah oui.
La CB.
Bah oui, ça
vous
marche.
Vous êtes dur. Donc pour toi, Mélissa, bah, aucun des trois. Juste.
T'as un budget étudiant, mange, mec. Hein. Mange D'accord. des pâtes.
Donc pour toi, c'est ce qu'on appelle IRL, in real life, quoi.
C'est
pour
ça.
Rester connecté avec les gens.
Ouais. In real life.
Très bien. Sylvain, Bebop, beeper ou mobile?
Une carte téléphonique. Hein.
Ah, une bonne carte téléphonique.
C'est ce qui reste le meilleur rapport qualité-prix hein, pour joindre au moins les gens en déplacement.
Ouais.
Et D'accord. après, ouais, peut-être un pager pour savoir s'il y a une urgence ou quelque chose comme ça.
Ah,
mais ça éclate le budget, hein, franchement.
D'accord.
C'est cher.
Donc tu rejoins Daz là-dessus. Ouais. Pager, carte téléphonique. Et toi, Fibre?
Alors pour être dans la simplicité, je dirais plus simple qu'encore carte téléphonique, une carte bancaire suffit. On peut téléphoner aujourd'hui avec une carte bancaire.
Ah bon?
Oui, tout à fait. Vous mettez votre carte bancaire à la place de la carte téléphonique et c'est pris, c'est débité. Donc c'est.
D'accord. Tu tapes ton code?
Oui, c'est ça. Tu tapes ton code.
Oh. Donc c'est bon. Vous êtes plutôt conservateur. Vous croyez pas au fait que les gens vont vouloir.
Une chose, c'est que le Bebop, donc le fameux téléphone itinérant.
Ouais, c'est ça. Bah, c'est plutôt pratique.
C'est
il
pratique,
suffit d'être à côté d'une borne.
Mais franchement, tout le monde se moque de vous. Voilà. Dans la rue, tout le monde dit, j'ai un Bebop. Le nom est pas super cool marketingement.
Ouais.
Et
ah, puis ça marche voilà. à Paris, quoi.
Ouais, voilà. Ça marche qu'à Paris. Et je voulais juste dire par rapport au pager, parce que j'ai un pager et j'utilise beaucoup.
Ouais.
C'est à double tranchant. Parce que, à la fois, c'est vrai que vous avez recevé vos messages et c'est agréable. Et à la fois, quand vous recevez sur votre pager, le message urgent, rappelle-moi, et que vous pouvez pas le rappeler avant 3 heures, vous vivez 3 heures d'enfer.
Mais pourquoi tu veux pas rappeler avant 3 heures?
Parce que parfois, vous êtes dans vous rentrez dans votre train à Gare de Lyon, vous avez le message qui se charge, vous regardez ça pendant le train, vous pouvez pas sortir du train avant 3 heures, vous vivez 3 heures d'angoisse, quoi.
Ouais, c'est vrai.
Et donc, que la personne vous dit simplement, j'ai oublié la recette des crêpes, va te faire foutre,
quoi. Ouais, c'est donc à ce moment-là, tu dis peut-être le mobile, ça pourrait être utile. Le GSM, la couverture commence à être pas mal.
Non mais sur Paris, dans un train,
non mais je suis... n'importe où, n'importe quand, c'est un enfer. Hein.
Mais non mais je suis désolé, mais l'intérêt du pager, c'est que comme t'appelles un service facturé pour pouvoir laisser ton message, les gens vont pas te laisser un message pour la recette des crêpes. Ça sous-entend que c'est que pour des trucs importants.
Ah bah oui, mais moi je dépense pas 12 francs par minute pour laisser la recette des crêpes. Surtout que quand c'est que par chiffre, accroche-toi pour le code du lait. Mais sinon, juste pour finir, soulever un point intéressant, qui a envie d'être connecté à ses amis toute la journée?
C'est
aussi
important. T'imagines?
Ouais. L'aliénation, quoi.
Ouais, c'est clair.
N'importe quoi.
J'ai pas assez d'amis intéressants pour ça.
Allez, on attaque tout de suite la toute dernière chronique et c'est Daz qui va nous parler d'un revenant, c'est Apple.
Sujet numéro 4.
Fan d'Apple, priez, la pomme va tenter de ressusciter.
Alors Daz, tu nous parles d'Apple.
Et oui, c'est la nouvelle de l'année pour moi. Tenez-vous bien. Steve Jobs revient chez Apple.
Hein?
Jobs revient chez Apple. Allez, d'abord les rachats avortés par IBM ou Sun Microsystems l'année dernière, et maintenant le retour à la maison du fils prodigue. C'est quasi biblique à ce niveau-là. Et là, les gens qui suivent un peu la marque et connaissent son histoire se demandent « Mais pourquoi faire, en fait ?» Parce que l'histoire d'Apple, ça démarre un peu comme un conte, une histoire à la Roald Dahl, tu vois, avec Steve et Steve qui bricolent des trucs dans le garage de leurs parents. C'est frais, sans calcul, spontané. L'histoire d'Apple, c'est un peu le symbole de la Californie. C'est deux gamins de Palo Alto qui révolutionnent un marché sans perdre leur naturel. Ils cadrent pas avec l'image qu'on se fait des Golden Boy aux dents longues et de l'informatique moderne, et c'est ça qui plaît précisément. Apple ne parle pas aux adeptes du costume-cravate avec le dernier StarTAC de Motorola. Apple parle aux humains. Apple ne parle pas au business, Apple parle à la famille.
Oh, le fanboy.
Bah non, mais c'est vrai, on déballe un Macintosh comme on déballe un jouet, pas comme tu déballes un magnétoscope ou une platine laser. Le Macintosh, c'est un ordinateur qui se prend pas au sérieux. Il a une bonne bouille qui est faite pour trôner dans un salon, pas pour être caché dans un bureau. Une souris si simple qu'elle ressemble à un jouet. D'ailleurs, tout l'ordinateur, finalement, ressemble à ce que t'obtiendrais si tu demandais à un enfant de dessiner un ordinateur. Voilà, clair. Donc l'informatique avec Apple, c'est fun, et ça, c'est l'esprit Apple. Mais voilà, comme dans une chanson de téléphone, le conte de fées ne peut pas durer. Les jours sombres guettent, le monde des affaires froid et cynique reprend ses droits. Du coup, quand Jobs se fait virer par celui-là même qu'il a débauché pour diriger sa boîte, là on passe de Roald Dahl à Shakespeare hein, directement, on comprend que la récré est finie. Et après le départ de Jobs, Apple a continué un petit peu à capitaliser sur l'image du Macintosh pendant un temps, puis elle s'est mise à sortir des produits bien plus sérieux, bien trop sérieux même. Des produits pour les professionnels de la profession, vous voyez.
Les gens gris, quoi.
Voilà, fini le tout en un compact des débuts, place à l'ordinateur en boîte sur lequel on pose le moniteur, désespérément banal. L'après Macintosh, le Apple des années 90, c'est le Centris, le Quadra, le Performa, le Powerbook. Vous sentez le décalage quand même vers la toute-puissance et la performance, quoi. Et sur ce domaine-là, malheureusement, bah, Apple ne peut que perdre. Parce que le Windows 95 de Microsoft, et plus généralement toutes les machines compatibles PC, ont déjà conquis des parts de marché gigantesques. Sur l'année dernière, on parle de 90% de parts de marché pour les IBM PC compatibles. Quoi.
Ouais, c'est la razzia.
Donc bah oui, rien à faire à ce niveau-là. Du coup, je repose la question du début par rapport au retour de Steve Jobs. À quoi bon devenir capitaine d'un bateau qui n'en finit plus de sombrer ?
C'est affreux.
Pour moi, c'est clair, les jours glorieux du Macintosh sont derrière nous et le retour de Jobs n'y changera rien. Apple, c'est une boîte qui se cherche depuis 6 ans, et même les quelques sursauts de créativité comme le Newton tombent un peu à plat. Parce que $700 pour un bloc-notes électronique, allons. Chez Palm, on fait plus modeste, mais plus pratique pour seulement un tiers du prix. Là, si je reprends la seule année 95-96, 3 mauvaises idées confortent le fait qu'Apple ne verra peut-être pas la fin du siècle. Première idée, un peu merdique, le Performa 5300. Un processeur 64 bits et un bus 32 bits égale un processeur qui tourne à la moitié de sa fréquence. Chef-d'œuvre d'ingénierie d'avant-garde. Si le Power PC a mauvaise place en ce moment, cherchez pas la cause plus loin. Deuxième idée un peu merdique, la version sous licence de macOS. Si Apple a déjà du mal à produire des machines qui ont du succès, pourquoi est-ce que Maxbox Data System ou Radius feraient mieux ?
C'est vrai qu'il y a des clones d'Apple.
Oui, c'est des clones officiels, donc c'est génial, les mecs. Bref. Troisième idée, alors là, on touche le fond quand même, c'est la pipine.
La pipine.
Oui, la pipine, une console de jeu orientée multimédia qui sort sur un marché occupé par la Saturn de Sega, la PlayStation de Sony et donc pour l'année à venir la Nintendo 64 de Nintendo pour un prix malheureusement $300 plus cher que la plus chère des concurrentes.
Voilà. Ah, ça va être compliqué pour Apple là.
Voilà, donc pour moi, pour que Jobs réussisse, il faut qu'il redonne à Apple son identité, qu'il réussisse à redorer un peu ce blason terni et puis à refaire d'Apple une marque culte. Et donc au studio 404, on a quelques idées que l'on souhaite partager avec vous.
En fait, accroche-toi hein, parce que pour que des
bah moi j'ai
des
une
fans
idée
du Apple faut
bah non, mais j'ai une page perso là.
J'ai une idée mais bon c'est un peu n'importe quoi mais en fait, il faudrait que Apple recrée le Macintosh.
Ah ouais, voilà, direct.
C'est pas compliqué.
On va faire un Mac.
Ouais, bah alors attention, on est quand même en 1997 donc là je parle pas de revenir au design de 1984 mais réussir à sortir un héritier un peu direct en phase avec l'époque quoi, tu vois. Un ordinateur tout en un avec l'écran et les composants dans la même boîte. Pour retrouver un petit peu le côté spontané, tu vois. On laisse les marques sérieuses sur leur marché de gens sérieux et nous on sort, je sais pas, des ordinateurs colorés, tu vois.
Ah ouais.
Bah pourquoi
pas. Sortir des ordinateurs qui sont ni beige ni gris.
Ouais,
ou noir.
Un truc je sais pas du bleu, du vert, tu vois. Enfin, jusqu'à présent, c'est le logo d'Apple qui a les couleurs.
Ouais.
Pourquoi est-ce que ça serait pas les machines d'Apple qui seront en couleur, quoi?
Ah ouais.
Bon, ouf, quoi. On sent vraiment que t'essaies de sauver le navire, mais
bah,
ça
c'est des couleurs,
c'est un petit artifice.
Bah, ça serait dingue. Attends, je suis désolé, un ordinateur bleu. Personne n'a eu un ordinateur bleu.
Personne voudrait le mettre chez lui. Hein.
Bah, connaissant Steve Jobs, il va arriver avant de la couleur. Bref.
Alors, l'autre solution pour éviter de se faire tuer sur un marché perdu d'avance, ça serait de se diversifier.
Donc, oui, là, parce que le marché du PC, il est un peu perdu.
Bah, là, c'est foutu pour eux. Donc, effectivement, si tu reprends ce qu'ils ont fait, le Newton et la Pipine, ça montre qu'ils ont déjà tenté des trucs. Mais avec Jobs aux commandes, Apple, il pourrait faire plus que tenter. Il pourrait réussir. Tu vois, pousser la barre un peu plus loin et se lancer vraiment sur d'autres marchés, et pas juste sortir un Newton et attendre que ça prenne sans rien faire, quoi. Il pourrait passer d'une stricte marque d'ordinateur à une marque du quotidien, tu vois. Une marque que tu aurais dans toute la maison, dans le salon, dans la chambre, dans les poches des gens, tu vois, un peu comme Sony. Apple pourrait être un peu comme Sony, mais en version américaine, quoi.
Oh, ils ont intérêt à s'accrocher, hein.
Mais oui, mais ils pourraient faire, attends, je sais pas, tu pars comme ça, tu dis, bah, ils pourraient faire leur propre Walkman,
mais
là, les mecs.
Ouais, mais tu parles de Sony, le créateur, quand même. C'est un peu les rois du monde, les gars.
Bah oui, mais attends, mais.
Qu'est-ce que tu veux faire de mieux que le Walkman?
Bah justement, t'imagines si demain, tu vois, les petits lycéens, ils vont en cours avec des baladeurs Apple dans leur poche, quoi.
Ouais, mais il y aura quoi sur ton baladeur? Enfin, il y aura des CD, c'est le Walkman, tu
vois. Bah, on s'en fout. Des CD, des cassettes, je sais pas quoi, mais un truc avec une pomme.
D'accord. Un baladeur.
Ouais. T'imagines le délire? Ça serait
fou.
Là, on parle en ce moment, tu vois, du boom des téléphones cellulaires. Mais t'imagines si Apple, demain, il sort sur ce marché-là un téléphone mobile, quoi.
En couleur?
Un Mac phone, tu veux dire.
Un Macintosh phone. Mais non, parce que regarde, le Newton, c'est pas un Mac tablette.
Bon, un Newton phone.
La Pipine, c'est pas une Mac gaming. Il pourrait sortir autre chose. Ouais, un new phone.
Ouais,
tu vois, un Newton phone. Bref.
Un truc Apple. Un truc joli,
simple,
rigolo.
Ouais, simple et facile d'utilisation, ça serait vraiment cool. Bon, après, bon, je m'emporte un petit peu, je vais à la science-fiction, mais.
Bon, Jobs, au point d'en est, je pense que tu peux rêver, là.
Mais Jobs, c'est quelqu'un de talentueux, et puis, on sait depuis Pixar et le succès de Toy Story, il est jamais là où on l'attend. Alors, qui sait, ça se trouve. D'ici quoi, 20 ans, tu vois, les sorties des produits Apple, ça se fera dans leur magasin. Il y a des magasins Apple, n'importe quoi. Avec, genre des gens qui attendent, tu vois, des files d'attente, pour acheter des produits. Un peu comme il y a eu les files d'attente pour Windows 95, tu vois. On sait que les gens, maintenant, ils sont prêts à attendre pour acheter des trucs.
Ah, plus de drogue pour cet homme. Là, c'est en train de partir trop loin, là. Les gars, Apple va revenir, ils vont régner suprême sur le monde entier.
Mais si ça se trouve, en plus, dans 20 ans, les mecs, ça sera même pas pour acheter un ordinateur qui feront la queue devant un magasin Apple, quoi.
Ok.
On peut rêver.
Pitié, Daza.
Bah là, ça y est, moi je suis arrivé au bout. Moi personnellement, c'est un truc. Moi j'y crois, tu vois. Steve Jobs qui revient, je me dis, soit il enterre la marque et voilà, il lui fait un avis de décès en bonne et due forme, soit bah, il essaie de la transformer. Donc, moi j'y crois. Voilà.
C'est ce que le patron de Dell pense d'ailleurs, non? C'est ce qu'il a demandé à Jobs.
Oui. Oui. C'est ce que le patron, donc Michael Dell, a dit effectivement que lui, s'il était à la place de Jobs, il fermerait la boîte et rendrait l'argent aux actionnaires.
Rendez l'argent aux actionnaires.
Bah oui, bah bon, Dell, ils ont le vent en poupe, mais je sais pas, je pense pas que Jobs accepte de revenir pour enterrer le truc qu'il a fait sortir de
terre. Toi, t'es un gros fan d'Apple, donc t'as envie d'y croire jusqu'au bout, du bout.
Le phénix, quoi, tu vois.
Ah. Non, mais il a raison sur Mélissa. Un point, quand même. C'est que l'ordinateur, c'est génial, mais c'est quand même hyper moche.
C'est vrai.
Et genre, si jamais on veut que
ça. C'est moche, c'est un ordinateur. Je vois pas. Un ordinateur, ça a toujours été un ordinateur, je veux dire.
C'est gris, c'est
ni moche ni laid.
T'as pas de télé bleue non plus, hein, je veux dire.
Bah ouais.
Non, mais c'est vrai, mais justement, enfin.
Toi, Mélissa, tu crois à ce côté un peu. On peut faire des ordinateurs rigolos, comme disait Daz.
C'est ça, le côté.
Si tu pars du
principe. Comme les jeux pour enfants, tu vois, un truc joli.
Bah oui, si tu pars du principe que l'avenir, c'est l'informatique. Ok?
Ouais.
C'est-à-dire que tous les ordinateurs qui sont utilisés par des informaticiens, à un moment donné, ça sera peut-être ta mère ou ton père ou ton petit frère qui sera sur un ordinateur. Donc, l'ordinateur, ça sera plus une machine sérieuse. Il faut que ça soit un truc que tu puisses mettre dans un salon.
Ben, c'est intéressant parce que c'était une des chroniques que Sylvain nous avait proposé pour cette émission. Et nous, on n'y a pas trop cru. Mais Sylvain nous disait, est-ce que l'ordinateur, à un moment, peut s'émanciper de son côté, c'est un truc de bureau et ça peut devenir un truc central dans nos vies et il peut être carrément dans nos salons, quoi.
Tu vois, si je reprends les trucs dont parlait Sylvain, les machins, les startups là, est-ce que tu vas vouloir que pour aller commander un livre sur Amazon, est-ce que ta mère, elle doit aller dans la salle de l'ordinateur de la maison? Non, il faut que le truc il soit disponible. Il devrait même être dans la cuisine, tu vois. Enfin,
d'accord.
Un truc qui te suive un peu partout.
D'un ordinateur disponible un peu partout. Sylvain, qu'est-ce que t'en penses de ça?
Moi, j'y crois, mais sérieusement, en changeant la couleur. Il faut tout changer.
Non, faut le design.
Si tu veux que ta mère utilise un ordinateur, il faut enlever la souris, hein, parce qu'elle sait pas faire. Hein.
Mais non, mais les
c'est toute l'interface qu'il faut changer.
Mais non, justement, les interfaces, ça, tu pourras jamais t'en passer.
Bah, regarde, Palm, t'as un truc avec des stylets, c'est intéressant. L'offre de Palm, tu vois.
Oui, mais je veux dire, ça reste.
C'est disruptif.
C'est intéressant, mais ça reste quelque chose en monochrome.
C'est trop limité, ouais.
Il y a un alphabet spécifique à apprendre pour pouvoir écrire des mots avec ton stylet.
Mais surtout, il faut que ce soit super simple.
Il faut que ça soit simple d'utilisation et que tu te fermes pas la porte aux évolutions, tu vois.
Fibre, quel est ton avis sur ces ordinateurs rigolos, bigarrés, voire des objets high-tech qui sont pas des ordinateurs, mais qui seraient des lecteurs audio, des téléphones avec la patte Apple et la patte Steve Jobs.
Alors, d'un point de vue d'ingénieur, imaginons je suis directeur technique de Apple, qui est une société qui est en perdition aujourd'hui, et qui effectivement a longtemps son point fort c'était la com. N'oubliez pas les spots de pub de 84, tout ça. Et effectivement. Ouais. C'est le retour de Steve Jobs, le Messie, c'est plutôt de la, plus de la com qu'autre chose. Mais donc les deux problèmes forts que je vois avec Apple, qui a des produits honnêtes, c'est le prix, c'est très cher. Très très cher par rapport
à... C'est vrai que là on parle de dizaines de milliers de francs pour un ordinateur de
base. IBM PC compatible. Et deuxième prix, deuxième truc qui est super subtil et à mon avis qui cause leur perte sans et qui refuse de l'admettre, c'est qu'il n'y a pas de jeu. Enfin, il y a très peu de jeux sur le produit Macintosh. C'est un peu le porno de Canal. Eh ben, il n'y a pas de jeu sur Macintosh. C'est-à-dire que quand vous achetez un PC, vous allez pouvoir jouer, faire du Word, faire tout votre travail, tout ça. Enfin, vous allez pouvoir faire des choses sérieuses, professionnelles, mais aussi vos enfants ou vous-même, vous allez pouvoir jouer et jouer à Civilization, ben c'est cool. Je veux dire, c'est vraiment important. Et sur Macintosh, vous pouvez aussi jouer à Civilization, mais vous avez un catalogue qui est beaucoup plus restreint. Et je pense que
il y a quand même ton Diablo que t'adores, dont tu nous parles en début d'émission. Blizzard, bon, c'est un des rares, mais il développe aussi pour les Mac.
Oui, mais c'est compliqué. Et à terme, justement, si j'étais directeur technique, je faciliterais ça. C'est-à-dire, je dirais, moi, dans 10 ans, je veux qu'Apple soit une machine dominante dans les jeux. Voilà. Et si j'arrive à faire ça, ben à mon avis, ils pourront décoller de cette façon-là.
Ouais, alors,
je suis d'accord avec
toi. Là, je disais que Daz était fou, mais alors toi, tu vas chercher encore plus loin.
Le choix, il est rationnel. T'as une machine qui est plus chère et où tu peux pas tout faire avec. Une machine qui est moins chère et tu peux tout faire avec.
Ouais.
Faut vraiment, je sais pas, qu'ils arrivent à donner une aura de ouf à la marque.
Bah, je sais pas.
Tu peux acheter la machine chère.
Quand t'achètes une Ferrari, tu peux mettre moins de trucs que dans une Renault 21, tu vois. Mais pourquoi?
Oui, mais elle va plus vite. C'est pas la Ferrari des...
Bah, justement, il faut qu'ils le deviennent, tu vois.
Tu peux pas te balader avec ton Apple et dire à tout le monde, regardez, j'ai un Apple. Tu vois, t'as une Ferrari, tu peux le faire.
En fait,
ça serait sur le.
Il faudrait que t'as un objet avec un logo en énorme dessus pour montrer. Les gars, j'ai un truc Apple, tu vois.
Tout le monde s'en fout d'Apple. Enfin, Steve Jobs, il est vachement surcoté, non? Tu crois qu'il peut sauver le genre? C'est pas.
Je pensais ça. Je pensais ça, mais enfin, Next, c'est quand même quelque chose qui fonctionne bien.
Enfin, Next, c'était foireux, donc c'était Jobs avant. Mais comme tu dis, Pixar,
c'était
une énorme réussite.
Tu vois, enfin.
Le mec, il fait Pixar quand même.
Ouais, parce que le fait qu'il fait des films d'animation qui va révolutionner le
monde. Mais non, mais ça veut dire qu'il a une vision. Je pense que quand le mec, on lui a dit, quand lui, il a commencé à parler d'un film qui sera en image de synthèse, les gens ont dit, mais n'importe quoi, le futur, c'est le dessin animé.
C'est vrai que, franchement, ça fait 2 ans que Toy Story est sorti et personne s'en est remis.
Tu fais pas mieux, enfin, t'imagines. Donc je me dis, voilà, le type, il revient chez Apple. C'est-à-dire que déjà, Apple rachète sa boîte, donc Apple rachète Next. Ok, donc Next, il faisait des systèmes d'exploitation, donc ça veut dire que
il pourrait partir du système d'exploitation Next pour faire le prochain système d'exploitation, ça peut être intéressant.
C'est-à-dire qu'il faut il faut qu'il te sorte une machine avec un système un petit peu en décalage par rapport à ce qu'on connaît.
Tu vois, pourquoi pas un système qui est aussi un peu coloré avec des petites touches de couleurs un peu, tu vois, comme des gouttes d'eau, des machins un peu avec du volume.
Il pourrait faire un truc.
Une interface un peu comme ça.
Moi, quand je vois en tant que client Macintosh depuis des lustres, quand je vois le succès de Windows 95, alors que Windows 95 finalement ne reprend que ce qui existe déjà dans, c'était système 7. Bon, maintenant on dit macOS depuis la version 7.5, mais système 7 est mieux. Et il est sorti il y a 4 ans. Il est mieux que Windows 95.
Là, c'est
quoi.
toi, t'es un fan d'Apple. Je veux dire, vous êtes quelques milliers encore dans le monde à ne jurer que par Apple.
Ah oui, mais un jour, c'est sûr, il faut qu'il
y a 4 graphistes et 2 musiciens qui disent Apple. Mais globalement, enfin, moi, je suis d'accord avec Sylvain. On vit dans une époque où, c'est le rapport qualité-prix, quoi. Tu t'en fous de la machine que t'achètes, elle est LED ou pas. En gros, c'est quoi la puissance? C'est quoi qu'est-ce qu'elle peut faire
donc
pour
vous,
moi? À quel prix?
Vous êtes client pour avoir une machine beige moche. Sur votre bureau plus tard.
Avec 2 clics sur la souris.
Ouais, avec 2 boutons sur la souris. Non mais si les gens achetaient pour une marque comme Apple, ça se saurait. Enfin, si les gens aimaient vraiment une marque au point de dire je l'aime parce que il y a un truc que tu vois qui est comme dit Fibre de la fierté sociale ou
on l'aimait avec le Macintosh, pourquoi ça pourrait pas revenir?
C'est vrai, parce qu'on est plus dans les années 80 peut-être et que les gens ils sont pragmatiques maintenant.
Non, vous êtes pas pragmatique.
On s'est pris des crises dans la gueule,
Vous êtes pessimiste, c'est tout. Pour moi, c'est le futur. Il faut que les mecs ils réussissent à recréer un peu de l'envie, tu vois.
D'accord.
L'envie, ça, l'envie d'avoir envie.
Ce serait intéressant parce que Jobs a annoncé en tout cas qu'il allait annoncer des machines et des choses vraiment très différentes de ce qui a été fait à la prochaine Macworld, je crois.
Il faut penser différemment, tu vois.
Ouais, ben, ouais. Mais moi, je fais pas confiance à un mec en col roulé noir et en New Balance pour me sortir des PC qui ont changé ma life. Hein.
En tout cas, on demandera aux auditeurs en tout cas ce qu'ils en pensent. Est-ce qu'ils pensent qu'Apple peut survivre? Ce qui est déjà la question de base avant le reste. Et est-ce qu'ensuite ils achèteraient un produit Apple s'il y avait un côté qui était plus, on va dire, dans le lifestyle ou dans le luxe, que dans la technologie pure, quoi.
Plus dans le design.
En tout cas, je sens que les réponses vont être bien, bien saignantes pour toi, Daz. On pensait que c'est Mélissa qui avait la chronique la plus avant-gardiste, mais en fait, c'est toi qui as la chronique la plus folle, en tout cas. Bisous, on se fait toujours des amis à chaque émission. Bisous aux 4 fans d'Apple en France.
Bah oui, moi j'y crois, les gars. Déméritez pas, ça.
Ils sont
ça
tous parmi nos autres fans comme fanatiques religieux.
Ouais, tout à fait, totalement.
Dans ton pseudo, Daz, tu devrais acheter un truc genre Daz Mac, tu vois, un truc
ouais,
genre.
Ouais, un truc comme ça, ouais.
Daz, je sais pas.
Ouais, je vais faire un truc comme
une page perso.
Une page perso où on parlera du Mac, tu vois.
Bah ouais, ouais.
C'est une sorte de journal.
Moi en tout cas, mon conseil aux auditeurs, vendez vos actions. Ne les gardez pas, ça sert à rien.
Ouais, parce que là, elles sont à quoi, d'être à 6-7$.
Je pense que vendez tout, là ils vont fermer de toute façon. Donc
très bien. Allez, on attaque en tout cas la toute dernière FAQ.
FAQ.
La dernière FAQ est posée également sur notre forum par Je suis Snail, aka Guillaume Casson. Alors je sais qu'on donne pas les vrais noms des gens sur Internet, mais bon voilà. On est un peu avant-gardiste. Je suis Snail en tout cas. Alors il nous parle d'un de nos chouchous, c'est François Fillon. Donc nous, vous savez qu'à 404 on l'aime bien. C'est un des premiers ministres geeks de l'histoire.
Ouais.
C'est un peu le mec qui a créé l'internet moderne français. Hein, il y a 2 ans, en 95, je vous rappelle qu'il est donc ministre des nouvelles technologies et de la Poste.
Technologie de l'information et de la Poste.
Je me gourre tout le temps les NTIC, les TIC. Donc c'est ça, ministre des technologies et de la Poste. Et donc il y a 2 ans, il a fait une sorte de forcing assez incroyable, il a dérégularisé le marché, il a ouvert la concurrence. Et donc maintenant, Snail nous dit, bah c'est cool, mais du coup, qu'est-ce que je fais? Je vois qu'il y a des offres illimitées avec AOL, je vois qu'il y a toujours France Télécom avec Wanadoo, on parle de technologies plus rapides comme le câble ou la DSL illimitée, des choses qui pourraient arriver, qui sont déjà dans d'autres pays. Comment vous choisiriez votre forfait, vous? Comment vous irez sur Internet maintenant que ça a été dérégulé grâce à François Fillon?
Bah déjà, enfin, il dérégule, pour moi, c'est un grand mot parce que tu es obligé de passer quand même par France Télécom pour avoir ta ligne.
Ouais, mais sans lui, l'Internet qu'on connaît aujourd'hui, peut-être l'Internet qu'on connaîtra demain, il n'existe pas.
Enfin, bah oui, vois, mais ça veut
François,
dire,
il fait bouger les choses.
Non, mais d'accord, mais ça veut dire que si tu as un fournisseur d'accès qui te propose un truc futuriste, en fait, il y aura quand même, à un moment donné, une bagnole bleue de France Télécom avec un type en bleu de travail qui va venir tirer un câble chez toi, tu vois. Donc c'est impossible.
Vrai. Ouais.
Parce qu'il suffit que France Télécom, il décide de dire, non. Et puis, ton offre révolutionnaire avec, je sais pas, AOL ou Liberty Surf ou je sais pas quel truc. Ça prendra pas. Enfin,
donc toi, tu restes chez France Télécom, tu cherches pas un peu novateur.
Tu vas dans un hôtel, t'essaies d'aller dans l'hôtel. Enfin, tu t'adresses au mec qui a les clés de l'hôtel. Tu t'adresses pas à un type qui a une chambre à l'étage et qui te dit chez moi c'est bien, tu vois.
Oui, bah,
peut-être qu'un jour les gens auront leur chambre eux-mêmes, tu vois.
Imagine qu'au lieu d'aller dans la chaîne d'hôtels, là il y a un nouvel hôtel trop bien indépendant qui se lance.
Ouais, mais un hôtel trop bien indépendant dont le fonctionnement dépend du premier hôtel. Que donc forcément
s'il existe, tu vois, et que genre il est mieux et qu'il est beaucoup moins cher.
C'est genre mon hôtel super trop bien, il est au 6e étage du Ritz, donc t'es quand même obligé de passer par la réception.
Alors on va transformer la question. Si vous étiez le conseiller de François Fillon donc là en 97 et que vous lui dites, bon écoute François, on est bientôt à mi-mandat, Chirac en 2002, je vois pas quel miracle pourra le faire élire, donc il va falloir faire des choses un peu fofolles quand même. Vous conseillez donc notre ministre des technologies de l'information et de la Poste. Qu'est-ce que vous lui dites pour qu'il dérégule encore plus ou qu'il transforme le marché d'Internet? Ouais, la question, elle est dure. Fibre.
Juste, je reviens sur ta précédente question. Excuse-moi de casser un peu le truc. Je raconte mon parcours, en fait, en fournisseur d'accès.
Ouais.
Donc, j'ai commencé par Club Internet parce que je trouvais le nom fun. Voilà. Ouais. J'ai vachement souffert. Et j'ai choisi aussi Club Internet parce que j'avais la haine de France Télécom.
D'accord.
Parce que ça faisait des années qu'on payait très cher. Ça me faisait chier. J'avais l'impression qu'il avait un monopole, qu'il avait tout dans ses mains et qu'il profitait de ce monopole pour faire beaucoup d'argent.
Ils vont faire pas avec la téléphonie, voilà, tu sais, avec les GSM et tout.
Par haine, j'ai fait ça et j'ai regretté un peu parce que finalement, comme dit Daz, c'est quand même eux qui ont les clés.
Bah oui.
Et c'est eux qui sont les plus performants. Donc, et du coup, je suis revenu sur Wanadoo.
Ah ouais. Donc tu penses pas qu'un jour, un mec un peu à la Sylvain avec des idées folles, start-up, il va arriver et dire, moi, je fais tout péter, je fais un forfait avec plus de services, moins cher, illimité et tout, et que les gens vont suivre, quoi. Genre, on revient toujours à France Télécom.
Imaginons qu'on ait l'internet illimité pour une somme fixe, déjà, ça serait moins d'angoisse parce qu'à chaque minute qui passe, on paye aujourd'hui. On c'est quand même, c'est, moi, j'ai un petit minuteur, hein, je sais pas si, comment vous faites, mais, et ce serait le paradis, mais et aujourd'hui, ils ont une manne pas possible, je vois pas pourquoi ils changeraient, hein.
Mais, imaginons, on fait la synthèse des quatre et on dit, imaginons, tu fais un fournisseur d'accès qui te fournit un modem qui est beau comme un produit Apple, qui te donne de la vidéo illimitée, comme on imagine Netflix. Non,
ouais, c'est bon,
et qui te permet d'aller sur Internet pour consulter toutes les pages que tu veux. Le tout avec un prix, un pitch de ouf, comme dirait Sylvain, je suis la synthèse des quatre.
Et il te permet ça aussi ou pas?
Moi, je veux bien, mais il est où ton bonhomme, là? Enfin, il aurait déjà fallu qu'il soit ici, là.
Puis surtout,
peut-être qu'il est resté sur le Minitel ou j'en sais rien.
Les gens ont envie d'avoir Internet. Les gens, ils ont pas envie d'avoir Internet, là.
Ça n'existe pas, tu rigoles.
Ils comprennent pas, tu vois.
Attends, tu captes déjà pas M6 en province.
Ouais.
Et toi, tu veux carrément un machin tout en un.
Non, mais Sylvain parlait d'un mec. J'ai vu une interview d'un gars bah, qui fait du Minitel Rose, mais qui est chaud. Il s'appelle
Charles Niel.
Xavier Niel. Niel, ouais. Qui est chaud. Bah là, il a un système de Minitel Rose. Il est en train de faire fortune avec. Donc déjà, il a tout compris.
Bah alors, il a aucune raison de sortir de ce modèle.
Non, mais il a dit qu'Internet, ça pourrait tout faire exploser. Donc, bon, il va sûrement faire des sites de cul sur Internet, mais imaginons qu'il fait plus de sites de cul, c'est peut-être des mecs comme ça qui nous offriront des forfaits qui casseront un peu le monopole.
Mais n'importe quoi, vous avez craqué. Ça veut dire que France Télécom accepte de mourir, en fait. Vous êtes en train de dire.
Non, mais tu vois.
Les
tu
mecs,
vois...
ils ont un vœu de suicide, en fait. Ils disent oui. Voilà,
donc François Fillon pourra, même Super François, notre chouchou sur 404,
si j'étais,
pas...
si j'étais le conseiller de François, si, j'aimerais beaucoup l'être, je lui dirais de surtout de rester copain avec les fonctionnaires de France Télécom et pour qu'ils investissent massivement dans les infrastructures de réseau, qu'ils les poussent, qu'ils les remercient, qu'ils soient gentils avec eux.
Ah, je crois qu'il les méprise un peu. Hein.
Je sais pas, on verra, l'avenir nous le dira, mais. Voilà, c'est mon petit conseil pour lui.
D'accord. Et toi, Mélissa, du coup, tu restes chez France Télécom ou tu tentes un opérateur un peu foufou depuis que ça s'est ouvert grâce à François?
Non, mais moi, j'aime pas trop explorer parce que ça me prend du temps.
Du coup, mais ça, t'as un problème de temps sur Internet,
un problème
je crois,
de temps, de temps d'organisation. Ça va être compliqué s'il y a de plus en plus de temps illimité, comme vous parlez là. J'ose même pas y penser à l'illimité. Mais
passeras ta vie dessus, c'est tout simple.
Du coup, j'aimerais voir autre chose, mais je fais comme Daz et je reste chez France Télécom, c'est chaud.
Ah bah dis donc, je suis triste pour une émission qui fait dans le futur la prospective, on a 4 personnes qui sont chez France Télécom et qui vont y rester. On attend en tout cas vos avis sur le forum, sur ces fournisseurs d'accès un peu fous, c'est un peu la nouvelle bande FM de l'Internet, c'est la radio libre de l'Internet, on verra quels fournisseurs vous utilisez. En tout cas, on se quitte nous, j'espère que vous avez pris votre dose d'inspiration, de pistes et de réflexion pour cette année 97 à venir, pour les prochaines années à venir, évidemment, parce qu'on n'a pas fini d'explorer le futur, il y a beaucoup de choses foireuses ou pas foireuses, on espère en tout cas avoir tapé juste le plus souvent. Et sur le forum, on ouvrira un topic. Qu'est-ce qui se passera dans 20 ans, par exemple? Qu'est-ce qui se passera dans 10 ans ou dans 20 ans? Donc en 2007 ou en 2017, comment sera Internet? 2017. Comment seront nos usages?
C'est le futur.
On sera si tellement vivant encore.
S'il n'y a pas eu le bug de l'an 2000.
C'est vrai. Je pense que le bug de l'an 2000 serait... même s'il casse tout, on aura le temps de tout recréer en 17 ans.
Ou le ballon qui a dégonflé.
Si Internet s'écroule en 2000, ce qui va potentiellement arriver, on aura 17 ans pour tout reconstruire de zéro. Ce sera peut-être le moment de faire passer vos idées folles. Ce sera peut-être le moment où Apple va reprendre le pouvoir, qui sait. Ouais. En tout cas, on attend vos réponses, vos prédictions pour dans 20 ans, pour 2017. Et nous, on se quitte. Vous pouvez retrouver l'émission, bien sûr, sur toutes les plateformes classiques, iTunes et SoundCloud. Alors iTunes, par contre, ce sera dans 8 ans, parce que iTunes supportera les podcasts que dans 8 ans. SoundCloud, donc vous nous retrouvez sur SoundCloud, évidemment, dans 10 ans, quand le service sortira. Évidemment, n'oubliez pas de partager à vos amis, d'envoyer des courriers et tout pour leur dire à quel point l'émission est bien, pour que ça
de
se créer propage.
Des pages perso.
Voilà, pour que ça se propage de manière virale, en tout cas. Allez, à très vite, ciao.
Studio 404, l'émission de société numérique.
Et pour ressort du TARDIS, on voyage dans le temps. Boum, nous sommes en 2017.
Attends, c'est pas
20
mal, hein.
Ans plus tard, 20 ans plus tard. Bon, on viendra écouter l'émission, c'est que de la merde.
On était bien des vieux cons.
J'avais raison,
pessimiste. À part Daz, qui peut dire j'avais raison.
Daz avait raison. Bah, tu avais raison.
Moi aussi, non, mais Lisa, alors, Daz avait raison, parce qu'Apple va évidemment tout ravager sur son passage. Une chose ne changera pas, c'est que les fans de la première heure sont toujours un peu aigris, ils sont un peu aigris en ce moment. Mais ça, t'avais raison
sur les pages perso.
Les pages perso, ouais, quand même.
L'internet des gens.
Plus loin.
Et Daz, t'avais raison sur les selfies.
Eh oui,
ah oui.
Eh oui.
Alors je vous rappelle, chers auditeurs, que on a évidemment travaillé beaucoup les chroniques, mais qu'on n'avait pas travaillé les débats. Donc beaucoup de choses sont arrivées un peu à la fraîche, et on a réinventé le selfie
sans faire exprès.
On the go, voilà. Sylvain, les startups. Bon, en fait,
La bulle s'est pas dégonflée, elle a explosé.
Ouais, elle a explosé. Le ballon?
Le ballon a explosé.
Le ballon a explosé.
Tout à fait.
Mais bon, ça n'a pas empêché de faire de...
Non, on continue toujours à vendre du vent et à lever des milliards sans avoir de modèle économique. Ça a pas bougé. C'est cool.
Amazon a bien marché.
Amazon a très bien marché, ouais. Et Thierry Lhermitte, par contre, on n'entend plus parler.
C'était quoi le nom du site?
C'était,
TCM.
Non, c'est Cinéma FCM. France Multimédia, je crois.
Eh ben, en tout cas, allez vraiment voir l'interview en entier parce qu'elle est intéressante parce que, enfin, Thierry Lhermitte, à l'époque, je trouve que son avis est plutôt pertinent et il y croit et c'est cool.
Il a aussi un guide de comment se connecter à Internet, un guide du multimédia que vous pouvez trouver sur YouTube.
Bah ouais. Et Fibre, le DVD. Bah, le DVD.
Qui préfigure le binge-watching, en fait.
Ouais.
Et voilà.
Et Netflix.
Netflix, mais aussi.
Netflix était vraiment un système de location et d'échange de DVD par la poste.
C'était vraiment,
Et qui est vraiment dans 97.
Un peu la reconfiguration aussi de comment on écrit les séries et la narration finalement aujourd'hui, qui dépend du support.
Bah, c'était.
Même le transfert des budgets, comme tu l'as évoqué, là, où les séries maintenant ont des vrais acteurs de ciné.
Donc on n'aura pas des films de 7 heures, mais plutôt des séries avec des moyens de films de cinéma.
Ouais, c'est ça.
En tout cas, on parlera de tout ça sur le forum. On vous remercie beaucoup de participer. Et, on remercie bien sûr évidemment nos Patreons. C'est le moment de leur dire merci aussi à nos nouveaux Patreons, puisque je vous rappelle que nous pouvons enregistrer autant que nous pouvons enregistrer avec du chouette matériel, et nous pouvons payer des frites du Cantal à Fibre Tigre après chaque enregistrement, grâce à vous qui nous...
Daz en prend pas mal aussi, hein.
Oh, ça balance.
Donc voilà, 20% du budget Patreon en fibre du Cantal, en frites du Cantal.
Fibre du Cantal.
Pour Fibre et pour Daz, en tout cas sur le patreon.com de qualité, et on va remercier quelques-uns de nos nouveaux Patreons.
Moi je remercie personnellement Clément, Kratu, Sabrina Baziz, toi je te remercie très fort, Julien Mulot, Julo, Olga Friedrizak, je suis désolé d'avance, hein, Mehdi Monko, Julie Duchesne, Tibu, Cyril Von Dunsleger, je suis très 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 désolé aussi pour toi si j'ai écorché ton nom.
C'est le nouveau sous-six.
C'est le nouveau sous-six du futur. Et Jim Nijima.
Ainsi que Martin Toraval, Alex Mendy, Omar...
Axel.
Oh merde, putain, Alex. Axel, j'y arrive pas. Omar RS, Marvin Marie-Sainte. En fait, ils ont fait exprès, ils ont pris que des noms compliqués. Simon Arnal,
salut,
Mélissa
Simon.
Saïdi, Adabi Faud... Non mais franchement...
Clément, on va l'appeler Clément.
Fordzen, Logel Clément. Charles Esquirol, Simon Bernstein, Julien Soulier, Perspective, Shingui... Okay.
Franciscus, G. Ducos, Le Bibou, merci Romain Bachy, merci Mathieu Figuier, merci Guillaume Cassan, je crois qu'il a posé une fac.
Oui.
Voilà. Merci Kevin Cholet, merci Alphonse Tarier, merci le petit Nicolas, merci Dr Wong, merci Axel Rock, encore une fois, merci La Jaune, merci Kevin Rocher.
Merci Gavin Loussouarn, merci Romain Billy, merci Lucas Delator Toré. Merci Stéphanie de Vancey.
De Vancey.
Merci Anaïs. Merci Olivier Bouvet. Merci Fenchurch. Fenchurch. C'est une marque, ça.
Ouais, on dirait.
On est sponsorisé.
Putain, on est sponsor pour une marque.
Merci Peter Brake. Merci Nicolas Lafrog. Merci Damien Lapearl. Merci Anui Nguyen. Merci Mathieu Ruti. Merci Celui qui baille. Merci Nelio. Merci Iwazaro.
Merci Yann. Merci Antoine. Merci Ben. Florent Belin. Belin. Schnorskorle. Donc Charles, j'imagine.
Salut
Charles. Salut Arzel aussi, c'est un mec qu'on connaît bien, ouais. Merci Prime Vert.
Merci Pablo Rut, merci Vincent, merci Suzy.
Merci Saucisse.
Merci Nicolas, merci Gary Poupin, merci Nicolas Dodin, merci Francky 59, merci David Larose, merci Jérémil et merci THMSBR
Thomas Bernard.
Je pense qu'on aura écorché un nombre record de dons Patreon.
Vraiment désolé.
Donner de l'argent pour vous faire ridiculiser sur Internet. Vraiment, c'est un concept d'avenir.
Internet, quoi.
Merci.
En 97, on y pense.
C'est bon, on a fait la liste de tous nos nouveaux Patreons.
On a fait le tour.
Et bien voilà.
On vous aime.
Merci beaucoup de nous aider à produire toutes ces émissions. Donc Studio 404, mais aussi Trajectoire, C'est Cool, C'est Quoi, Le Log et les prochaines émissions à venir. Alors regarde Daz. 2037, Daz?
Non, cette année, c'est la bonne.
Cette année, c'est-à-dire 97 ou...
Ah, elle a déjà eu lieu en 97.
25 décembre ou plutôt 1er janvier?
Ah bah écoute, c'est justement, moi j'ai appris des chroniques de Sylvain, il faut surtout pas s'engager sur un mois. Donc dans l'année, c'est très bien. Année fiscale.
Allez, très bien, à très vite, on se retrouve en février 2017. Ciao à tous.
Ciao.
Bisous.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.